Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 310 du podcast Touch en Actuel Amatei. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés cette semaine, il y a d'abord Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
Bonjour aussi à Raphaël Masmejean.
Salut.
Fidèle à ses manches courtes. Ah non, c'est chemise relevée, pardon.
Chemise relevée, ouais.
Ah, il est en retrousse pour nous faire croire que
il lutte et tout. La température baisse, mais il lutte. Camille Saraben est là aussi. Bonjour Camille. Cette année encore, le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, soirée Game On au Hard Rock Café avec Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs et des beers buckets, 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres ne ratées. Pas ça, c'est tous les dimanches au Hard Rock Café Paris sur les grands boulevards. Beaucoup d'amour pour la Californie cette semaine avec les Raiders et les Niners qui gagnent. On va passer aussi en revue l'exploit des Colts qui ont maintenu l'attaque des Chiefs à moins de 20 points. Et puis on parlera dans le quatrième match de la semaine d'une autre rencontre qui m'échappe. Oui, c'est les Packers qui ont battu les Cowboys. Vos questions, le répondeur, les tops et les flops, tout ça c'est au programme de la semaine et c'est parti.
Hey, it's Hunter Renfrow from the Oakland Raiders, and you listen to the Touchdown Podcast.
Hi, this is Darren Wall from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
La première affiche de la semaine avait lieu à Londres, messieurs, au Tottenham Stadium. Et un match à suspense, pas en première mi-temps, avec un 17-0 pour les Raiders. Pas totalement dans le troisième quart-temps, avec un 21-0 pour les Bears. Mais ça s'est terminé dans le suspense, avec une interception d'Oakland et un drive de 97 yards pour aller l'emporter sur un superbe plongeon de Josh Jacobs. Une belle victoire et qui symbolise un petit peu des Raiders. Qui sont quand même très vaillants cette année, pas les plus talentueux, mais ça ressemble à un groupe soudé et plutôt bien coaché. Raphaël.
Oui, oui, tu l'as dit, si je peux me permettre de m'exprimer sur les Raiders, vu que je ne suis plus le bienvenu à Oakland, mais je vais quand même donner mon avis là-dessus. Peut-être que je pourrais retrouver un billet comme ça pour Oakland. Tu le dis, ils sont très bien coachés. Ça se voit, je trouve, dans le scénario de ce match par rapport au fait que, après être remonté, que les Bears leur repassent devant 21-17, on aurait pu penser que les Raiders pouvaient peut-être retomber un peu dans leur travers, baisser la tête et se faire battre sur ce match. Et finalement, ils ont la capacité d'aller quand même, de rebondir avec ce drive, notamment de 97 yards, qui est franchement d'une vraie beauté. Remonter comme ça les Bears sur 97 yards à l'heure actuelle, quand tu vois la défense des Bears, faut le faire. Donc c'est bien coaché et c'est même bien coaché par on va dire par escouade, puisqu'il y a on l'a assez critiqué pour pouvoir reconnaître que la ligne offensive a progressé cette année malgré les doutes qu'on pouvait avoir sur Tom Cable. Le tight end Darren Waller émerge. Voilà, globalement, c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas l'équipe la plus talentueuse, mais il y a quelque chose qui se crée, il y a une vraie identité avec ce jeu au sol maintenant qui s'impose de plus en plus à l'image du rookie Josh Jacobs. Et ça facilite la vie d'un peu tout le monde, notamment de Derek Carr, de pouvoir s'appuyer sur un jeu au sol important cette saison. Donc là-dessus, on peut clairement que féliciter et apprécier le travail fait par les hommes de Gruden. Ouais.
Grégory, ils ont l'air, comme le dit Raphaël, d'avoir trouvé une identité. Il y a 123 yards et 2 touchdowns pour Josh Jacobs. Trent Brown et la ligne qui font du gros boulot. Aucun sac pour les Bears dans cette rencontre. Mmh. Une fois que tu as une identité comme ça, ça change la vie.
Oui, non, très clairement. Et moi, ce que je trouve assez impressionnant, et Raphaël en parlait à demi-mot, c'est quand même, on n'a pas un groupe hyper expérimenté, puisque justement, on a beaucoup capitalisé sur la dernière draft, sur des joueurs qui restent relativement jeunes, à l'instar de Gerrion Conley, qui reste un cornerback vétéran, mais qui était drafté il y a 2 ou 3 saisons à peine par la franchise californienne. Donc non, vraiment, on arrive malgré tout. Et c'est vrai que sur ce match-là, on insiste encore plus sur la ligne offensive. Mais je trouve que la D-line notamment, on attendait que Clelin Ferrell, en effet, mais on ne voit pas que lui. Même un joueur comme Maurice Hurst, qui je trouve ces dernières semaines était un peu plus bousculé, bah là, il a sorti le gros, gros match contre la O-line de Chicago pour être capable de mettre la pression et de vraiment faire sortir, je trouve, Chase Daniel de son match. Et voilà, de retrouver cette assise dans les tranchées. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, mais là encore, on voit qu'en NFL, c'est quand même un point fondamental. Quand tu arrives à être dominant comme ça, des deux côtés de la ligne, c'est important. Et c'est pas un hasard si Oakland, comme la semaine dernière à Indianapolis, en étant dominant dans ce secteur de jeu, arrive à s'imposer contre une bonne équipe et une bonne défense de Chicago.
Moi, je vais rajouter un truc sur l'ambiance et le côté soudé, et tu disais, Raphaël, l'identité, etc., et le drive de fin et le caractère qu'ils ont montré. Je rajouterais, comme on y était, sur le vestiaire. Ce qui m'a aussi frappé, c'est, ce serait mal formulé de dire manque d'enthousiasme, mais le calme des joueurs quand ils en parlaient après. C'est-à-dire que ça n'avait pas l'air d'être un truc exceptionnel, ça avait pas l'air, ils n'avaient pas une attitude vraiment « rentre dedans, vous voyez, on l'a fait, on a calmé les Bears ». Ils étaient tous très sereins, très calmes. Ils expliquaient tous, notamment Trent Brown, qu'on a interviewé après la rencontre, qui justement disait « c'est comme ça, c'est le match, il fallait qu'on reste calme, on a mis en place après, on a continué ». Alors évidemment, c'est le discours qu'ils ont un peu tous, mais il y a des fois aussi dans l'autre sens pour des équipes qui sont sous-cotées ou qui sont pas attendues, parfois cette réponse un peu plus agressive, plus enthousiaste, en tout cas de dire voilà, on a réussi à le faire. Et en fait là, c'était très calme, ils cherchaient pas par exemple à dire oui, on s'est fait les Bears. Ils reconnaissaient tous la qualité de la défense des Bears, ils disaient juste qu'ils avaient fait le boulot qu'ils avaient à faire, qu'ils aimaient bien le plan de jeu, que ça se passait bien. Enfin, moi je sentais vraiment une sérénité dans ce vestiaire. Il y a l'air d'y avoir un truc qui se crée. C'est aussi pour ça qu'on va faire ces matchs sur le terrain. C'est parce que c'est plus évidemment plus facile de sentir ce qui se passe dans le vestiaire quand on y est. Et franchement, on ressentait ça dans le vestiaire. Ils avaient l'air calmes. Ils n'avaient pas l'air d'avoir fait un exploit. Ils n'avaient pas l'air d'être surcontents ou d'avoir eu l'impression de prouver quelque chose à quelqu'un.
Et juste pour compléter,
Je trouve ça rassurant pour le groupe, ouais.
Ouais, excuse-moi. Mais juste pour compléter ce que tu disais, c'est vrai que alors c'est encore plus symptomatique avec du coup le départ d'Antonio Brown en début de saison et la suspension désormais de Vontaze Burfict. C'est vrai que hormis peut-être Derek Carr en attaque, il y a pas forcément une tête qui dépasse, on va dire, du reste des deux escouades, quoi. Et c'est comme tu dis, c'est vraiment un collectif avant tout. Et il y a pas de top player dont on attend éventuellement un exploit ou quoi que ce soit. Et je pense que ça amène un petit côté un petit peu stimulant, je trouve, à cette équipe aussi.
Et d'ailleurs, Derek Carr, parce qu'on ne l'a pas encore beaucoup évoqué, mais ça reste quand même un quarterback sous-estimé. Il n'est pas encore hyper bien entouré. C'est un groupe qui travaille et qui fait du bon boulot. Mais il n'est pas encore très, très bien entouré. Là, il utilise quand même bien ses tight ends. Il essaye quand même de temps en temps. Il a quand même eu quelques bonnes passes. Et c'est un quarterback très solide et qui peut être très solide si on lui donne du matos pour travailler. Et on l'avait dit dans une émission précédente, il travaille bien sur les débuts de match, quand c'est scripté notamment et quand il faut commencer. Alors là, il commence par un punt, mais derrière, c'est touchdown de field goal sur les premières séries, et c'est là qu'ils font la différence. Donc ils travaillent bien quand même, encore une fois, sur le coaching et tout ça. Ils viennent de battre les Colts et les Bears, jusqu'où ils peuvent aller?
Wild card. De toute façon, ils n'iront pas chercher, enfin à mon sens en tout cas, à moins qu'il y ait vraiment une implosion du côté de Kansas City, ils n'iront pas chercher le titre de division. Et je pense que je dirais peut-être avec Houston, Buffalo, Baltimore, il y a moyen de se tirer un peu la bourre, même Oakland, hein, parce que pour l'instant, l'AFC Nord, on a le temps d'en parler, mais il y a moyen quand même de se tirer la bourre avec 4-5 équipes pour éventuellement aller chercher le 5e ou le 6e ticket de l'AFC.
Raphaël, t'es plus mitigé, moi j'avoue que ouais, aussi un petit peu. Peut-être pas s'enflammer, moi j'irai pas jusqu'à playoff.
Ah, ils ont quand même gagné à Indianapolis aussi, hein. C'est pas un match.
Non, c'est vrai, pas un match, ils sont dans une bonne dynamique. Après, je pense malgré tout que les places 5-6 risquent de tomber, à mon avis, peut-être plus pour les Bills. C'est une deuxième équipe de l'AFC Sud. Même si on se tape en dedans...
T'es plus rassuré par les Bills que par les Raiders, de ce que tu vois depuis le début de saison?
Non, mais par contre, je pense qu'il y a plus de talent et je pense qu'en NFL, ça finit par faire
surtout
la différence.
Surtout que les Raiders ont récupéré un receveur des Bills, en plus.
Oui, non, mais je pense vraiment qu'à un moment, en NFL, le talent finit par faire la différence et la défense des Bills est quand même bien plus talentueuse que celle des Raiders. Et je pense que sur la longueur, avec en plus les Bills qui peuvent aller chercher deux matchs contre les Dolphins et deux matchs contre les Jets, à peu près garantis à l'heure actuelle,
Bon, après, on va être vite fixé au niveau du calendrier parce qu'ils vont à Green Bay, à Houston dans les deux prochaines, sur leurs deux prochains matchs.
Et il y a Détroit en troisième.
Et voilà, après, c'est Détroit, les Chargers. Donc, c'est des matchs un peu pile ou face, on va dire, vu le niveau actuel.
Ouais, mais qu'il faut gagner s'ils veulent aller en playoff.
Voilà. Et donc, derrière, il y a Bengals et Jets qui sont prenables. Mm. Et ensuite, ils réenchaînent avec Chiefs, les Titans qui peuvent être quand même très solides en défense, les Jaguars qui peuvent être très solides en défense, de nouveau les Chargers et les Broncos qui, sur un match en défense, peuvent aussi être embêtants. De division.
Tu vois, les 4 prochains matchs sont pas évidents. Et s'ils font 2-2 déjà sur cette série-là, ils resteront dans le coup. Moi, très franchement,
oui, s'ils font 2-2,
les places en wildcard en AFC, je les vois pas à 12-4. Hein.
Non.
Donc,
non,
à mon avis, à 9-7, tu as déjà un moyen d'être dans le coup. Donc, je pense qu'ils vont tous se bouffer les uns les autres. Mais je te rejoins, c'est sûr que ça va être un test. Notamment, le déplacement à Houston va nous donner une indication précieuse.
J'ai envie de dire, déjà, s'ils sont à 8-8, c'est quand même une super nouvelle pour la reconstruction qui est engagée.
Oui, je suis d'accord, ouais. C'est ça. C'est déjà, ne serait-ce qu'ils arrivent à se mêler dans la lutte pour les playoffs jusqu'à la fin de la saison, c'est potentiellement mieux que ce que la plupart d'entre nous pensaient. Alors après, je me doute que certains y croyaient un peu plus, voyaient plus dans cette équipe, pourquoi pas. Mais déjà, avec l'effectif sous la main, l'intersaison un peu chaotique qu'il y a eu, se mêler pour la lutte aux playoffs jusqu'à la fin de la saison, à mon sens, c'est montrer que la deuxième année est sur les bonnes rails et que la franchise repart bien. Donc, c'est déjà très positif. Ouais.
J'évacue la question, on va l'évacuer très brièvement. Hein, mais Khalil Mack n'a pas eu de sac dans ce match. Josh Jacobs, un des joueurs qui était inclus dans l'échange, a brillé. Est-ce que les Raiders ont bien fait d'échanger Khalil Mack?
Non.
Non.
Non, on est d'accord. On est toujours meilleur avec Khalil Mack dans son équipe. Faut pas abuser. Les Bears, quand même, on a déjà pas mal parlé d'eux. On va pas s'inquiéter pour leur défense, quand même. Il y a eu une blessure en plus en début de match sur la ligne qui était importante.
Hakim Hicks, notamment.
Voilà, Hakim Hicks sort avec un problème au coude. Ah, donc,
il les traîne quand même depuis le début de la
saison.
Oui,
il les traîne. Ouais, le match dernier, il avait déjà un peu. Ouais.
Donc, c'était pas. Voilà. Mais ça reste gérable en défense. Par contre, en attaque, il y a quand même un problème. Et on voit notamment que Jordan Howard, on parlait d'identité offensive et de jeu au sol, ça manque.
Ouais, après, il y a beaucoup de choses qui m'embêtent un peu du côté de Chicago. Enfin, tu le disais, il y a quand même des absences quand même en défense. Alors oui, le talent est tel que ça se voit un petit peu moins. C'est sûr qu'en attaque, bon alors, encore une fois, hein, Trubisky fait pas un bon début de saison. Mais bon, je trouvais qu'on en faisait un petit peu des tonnes à dire, bon, vous voyez, Chase Daniel, l'année dernière, il a globalement bien géré pendant son intérim. Mais il y a aussi une défaite, il me semble, chez les Giants. Dans le lot, dans un match qui était largement à leur portée. Donc, voilà. Et puis, en effet, sur la question du running back, de toute façon, le problème, je pense, c'est pas le fait que Jordan Howard soit parti, c'est le fait que tu veuilles absolument donner les clés à un joueur rookie qui sort d'un troisième tour et qui, je pense, va avoir une marge de progression intéressante, mais qui, dans l'immédiat, doit encore grandir. On voit qu'il y a des petites fulgurances, des phases de jeu où on décèle quand même un certain talent. Une capacité à casser les plaquages, mais c'est encore léger, surtout avec la ligne offensive qui, je trouve, est quand même très irrégulière depuis le début de saison.
Oui, mais et là où je veux dire que le jeu au sol manque, c'est quand t'as pas un vrai bon quarterback. Donc c'est là où c'est une erreur de laisser partir Jordan Howard et de faire un pari sur ton jeu au sol au moment où t'as pas encore un bon quarterback.
Bah, je pense que oui. Enfin, j'imagine naïvement que Matt Nagy n'avait pas prévu que Trubisky enchaîne avec une saison, avec un début de saison pareil. On est d'accord.
Oui, voilà. Enfin, moi, j'incluais Trubisky dans le.
Mais paradoxalement,
quand t'as pas un bon quarterback.
Paradoxalement, on a retrouvé un Allen Robinson un peu plus tranchant dans les airs.
Exceptionnel. Par contre, quand ils prennent feu dans le troisième quart, ils ont mis le feu au stade. Hein. Pour ceux qui posent la question, le stade, il était majoritairement vert, parce que c'est vraiment dans le troisième quart temps que ça a fait le plus de bruit. Ils ont quand même les playmakers. Quand Allen Robinson est réveillé, c'était du très bon. Le receveur numéro 2, et j'ai un trou maintenant.
Anthony Miller.
Anthony Miller, merci. Je m'embrouille dans les Miller, qui réussit une réception incroyable au-dessus d'un défenseur. Tariq Cohen avec un énorme retour de punt. Il y a des playmakers quand même. Mais il manque un petit quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, c'est ça qui va les embêter et qui va faire qu'ils vont être border playoff jusqu'au bout. Hein. Ça va être compliqué. On enchaîne, messieurs, avec une autre équipe californienne, les 49ers, 31 contre les Browns, 3 petits points. Là, ça a été beaucoup moins serré, mais on a peu parlé des 49ers depuis le début de l'année. Ils jouaient pas mal d'oppositions faibles. Là, ils sont quand même, ils ressemblent légitimement à une équipe sur laquelle il faudra compter en NFC. La hype 2018 a écrasé la hype 2019, littéralement. 185 yards au sol pour les Niners, 3 matchs de suite avec minimum 168 yards au sol, un Nick Bosa qui fait dégoler le pass rush. Ils ont quand même enfin les ingrédients pour être réguliers. Évidemment, on en revient encore à cette base. Jeu au sol, jeu au sol, jeu au sol.
Ouais, on retrouve en tout cas depuis plusieurs matchs un Kyle Shanahan au niveau du coaching et notamment des appels sur le jeu au sol très très plaisant, et ça se voit encore avec des jeux, notamment la course de 83 yards de Matt Breda qui est hyper bien dessinée avec son fullback qui bouge pour bloquer un angle. Enfin, du bon Kyle Shanahan qu'on avait un peu perdu l'an dernier, je pense, mais il y avait eu tellement de galères en termes de blessures, le fait de prendre le poste de head coach, voilà, peut-être qu'il s'était un peu perdu. Ça revient bien en termes de coaching et ça aide forcément. Et quand tu peux imposer ton jeu au sol de cette manière-là et qu'en plus tu domines, comme le disait Gregory, c'est la même image que pour Oakland. Quand en plus tu domines sur la ligne défensive, à l'image d'un Nick Bosa qui a été absolument énorme sur ce match, il a 2 sacks, 5 quarterback hits de mémoire. Enfin, voilà. Ils gagnent la guerre des tranchées, ils imposent leur jeu au sol et derrière ça facilite la vie de Jimmy Garoppolo pour faire des play action, pour voilà, tout est plus simple. Donc c'est un beau début de saison. Moi je reste encore un petit peu sceptique sur l'adversité depuis ce début de saison. Quand je vois leur calendrier, Bengals, Jets,
Tampa, Bengals et je sais plus quelle équipe ils ont
Tampa,
après,
Bengals,
les Steelers.
Steelers, Tampa Bengals, Steelers, Browns.
Voilà, des Steelers en perdition, on y reviendra, mais pas forcément que de l'autre. Bon,
donc une équipe avec un bilan positif.
Je pense que là, le prochain match face aux Rams est vraiment capital pour juger, d'ailleurs les deux équipes, hein, mais oui. C'est un vrai test pour tout le monde en fait.
Ils ont 40 courses pour 31 tentatives de passe, hein, dans ce match, donc il y a une vraie différence. Au niveau du plan de jeu, Grégory, convaincu ?
Oui, oui. Alors après, c'est pareil. J'entendais des gens dire, vous allez voir, on va découvrir la supercherie Garoppolo, ceci, cela. Enfin, en tout cas pour ses détracteurs. Mais très franchement, on se rend compte que le plan de jeu, de toute façon, c'est pas de faire de Garoppolo, même si son contrat pourrait le sous-entendre, d'en faire la star offensive de cette équipe de San Francisco. Parce que de toute façon, je trouve que les cibles, en dehors de George Kittle, qui au passage refait un touchdown à la réception, bon, ça reste quand même assez limité, je trouve. Pour l'instant, en tout cas, chouette que Deebo Samuel me fasse mentir, notamment. Mais en tout cas, oui, l'identité, c'est le jeu à la course, le jeu à la course, le jeu à la course. Là où j'attendais un peu plus convaincu, en effet, c'est quand ils joueront vraiment un run-stop hyper dominant et où là, pour le coup, on mettra plus de responsabilités sur Jimmy Garoppolo. Là, je pense qu'on découvrira vraiment l'identité de San Francisco et la capacité à aller chercher un match offensivement des deux manières, on dira.
Et puis pour l'instant, il n'a pas besoin de flamber et de s'accrocher au ballon. Il a juste à jouer juste et il le fait bien, ce qui est déjà beaucoup. Parce que dans le même temps, en face, on a par exemple Baker Mayfield qui, lui, garde trop longtemps le ballon, se fait intercepter 2 fois et vient un match cauchemardesque.
Ils n'ont pas la même ligne, hein.
Non, ils n'ont pas du tout la même ligne. Il a 100 yards tout rond, Baker Mayfield, avec 2 interceptions. Donc, ils n'ont clairement pas la même ligne. Est-ce que c'est la ligne offensive des Browns qui est le baromètre de cette équipe et on dit quand ça ne va pas et qu'ils se font déborder, ça borde le jeu au sol et Baker Mayfield, ou alors est-ce qu'il commence à y avoir un problème Baker Mayfield ?
Je pense qu'il y a un problème Freddy Kitchens, mais ça revient assez souvent depuis le début de la saison, malheureusement pour les Browns. Je pense que, encore une fois, quand tu es un ancien coach running back qui en un an devient à la fois head coach et coordinateur offensif, en plus dans une équipe qui, encore une fois, voilà, passe de rien à tout, entre guillemets, enfin, en tout cas des spotlights d'un coup de baguette, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est. Et je me demande si Freddy Kitchens gagnerait pas à se libérer de ce poids des appels de jeu. Il a engagé Todd Monken, qui, je trouve, en tant que coordinateur offensif, en tout cas aux côtés de Dirk Cutter, attend pas à pas démériter. Donc, je pense qu'il gagnerait justement à chapeauter un peu plus l'équipe, rester sur ce côté un petit peu coach-pote, on va dire, parce que c'est un peu cette mentalité-là en atteinte du côté de Cleveland. Et voilà, arrêter de se mettre cette pression, surtout quand on voit que pour l'instant, c'est pas très concluant, hormis peut-être le match à Baltimore.
Allez, ouais. Chiefs 13, Colts 19. La méga performance de la semaine pour les Colts. Première équipe à maintenir Patrick Mahomes sous les 26 points. On va pouvoir arrêter de compter les matchs à 26 points à la suite des Chiefs. Comment ont-ils fait ? Qu'est-ce que vous avez vu en défense ? Comment on prend ces Chiefs ?
Ce qu'ils ont fait en défense, mais d'ailleurs même Patrick Mahomes l'a souligné en conférence d'après-match, on a vu une équipe des Colts qui a beaucoup défendu en couverture homme contre homme. C'est assez intéressant d'ailleurs, puisque les Colts, j'ai vu passer ce matin, sur 68% des snaps à peu près ont défendu avec une couverture homme à homme. contre en moyenne 12-13% le reste de leur match. Eux qui ont plus l'habitude d'avoir une défense en couverture de zone, etc. Donc ils ont su s'adapter. Ils ont su s'adapter assez brillamment parce que faut rappeler quand même qu'ils se sont fait découper en divisional round lors des dernières playoffs il y a quelques mois seulement par cette équipe des Chiefs. Donc il y a une vraie adaptation. Après, je vais tout de suite peut-être casser l'ambiance du résultat des Colts, hein, mais c'est aussi une défense que tu peux te permettre de faire et qui est facilitée par le fait qu'il te manque Tyreek Hill et Sammy Watkins d'un côté. On va pas les blâmer pour ça, hein, ça fait partie du jeu, mais je pense que c'est d'autant plus facile de faire ces ajustements-là quand en face, t'as une équipe qui progressivement a perdu des joueurs importants en attaque.
On peut aussi dire que Patrick Mahomes est un peu gêné par sa cheville.
Et c'est ça, voilà, il prend un de ses joueurs, un de ses linemen sur la cheville aussi, ses stats... Il est à 12 sur 15, 130 yards dans le premier quart-temps. Et sur les trois derniers, il est à 10 sur 24, 158 yards. Donc, il a probablement aussi à un moment été gêné par ça. Mais comme dit Raphaël, je pense que Greg, tu seras d'accord. Mais ça montre aussi juste qu'au bout d'un moment, Patrick Mahomes a aussi besoin de coéquipiers. Quoi,
ah,
parce que c'est vrai que ça commence
mais
à faire beaucoup de
monde. On a redécouvert avec ce match-là Patrick Mahomes. Là, il est en plein dans le paradoxe Russell Wilson, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut faire plein de choses miraculeuses avec tout le talent qu'on lui connaît, et en l'occurrence, le touchdown qu'il arrive à trouver en fin de première mi-temps, il sort de nulle part, il arrive à se le créer alors que vraiment, il était dans la mouise. Mais c'est sûr que t'as pas de jeu au sol, comme le disait Raph, t'as deux de tes trois principales cibles qui sont pas là, et t'as une ligne offensive.
Qui a perdu son left tackle, son garde gauche, enfin ça.
Je veux dire, au bout d'un moment, déjà à Détroit, ça posait un peu question parce que il avait eu un match un peu compliqué avec une fin de match où bon, Détroit a fait du Détroit. Mais là, voilà, encore une fois, contre un bon coordinateur défensif, on se rend compte que oui, ça commence à toucher certaines limites, ouais.
Même question pour les Colts que pour les Raiders. Où est-ce qu'ils vont? Ils ont du sol, ils ont de la défense. On n'a pas cité, hein, mais donc Matt Eberflus, le coordinateur défensif, dont on reparlera sûrement en fin d'année quand on cherchera des coachs. 180 yards au sol encore. Comme les Raiders, ça va où? Ça va en playoff aussi? Enfin, ça va se battre pour ça, non?
Ah, ça peut gagner la division,
ouais,
même. Hein.
Ça peut.
Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils ont la division qui peut
avec
prendre.
Houston, je les vois bien au coude à coude jusqu'au bout de la saison régulière.
Mm-hmm. Même chose pour Raphaël.
Oui, bah, pareil. Et ils ont une vraie grosse ligne offensive qui, à mon avis, va pouvoir permettre au jeu au sol des Colts de s'établir vraiment toute la saison.
Excuse-moi, j'attendais que tu finisses, mais ouais. Et puis une des clés, en l'occurrence, qui a été bien mise en avant par Indy, c'est que voilà, là pour le coup, on a vraiment vu la notion de ball control, quoi. C'est-à-dire qu'on a pu s'appuyer sur Marlon Mack et priver Patrick Mahomes encore plus de ballons pour casser le rythme. Et voilà, quand c'est fait aussi bien. Bah, faut aussi le mettre en avant et ça peut être une clé pour Indianapolis jusqu'à la fin de la saison.
Cowboys 22, Packers 34, gros match NFC et un bon point pour les Packers avec enfin une belle attaque. 107 yards au sol pour Aaron Jones, 22 sur 34, 238 yards pour Aaron Rodgers dont les passes avaient l'air plus affûtées. Ça commence à prendre forme en attaque du côté de Green Bay.
Oui, bah en tout cas, là, ils arrivent à trouver leur carburation et puis en début de match, on a l'impression que peu importe ce que faisait Aaron Rodgers, il fermait les yeux, ça passait. Alors, je ne sais pas trop si c'est... Encore une fois, hein, je suis pas en train de dire que c'est forcément le cas, mais je sais pas si c'est plus l'attaque de Green Bay qui était dedans ou la défense de Dallas qui en début de match est aux abonnés absents parce que la différence de niveau en première mi-temps me paraissait quand même assez impressionnante. Tu t'en parlais jeudi, mais c'est vrai que bon, très clairement, les Packers sont arrivés un peu piqués au vif après leur défaite surprise contre les Eagles, alors que manifestement les Cowboys. Surtout offensivement, en l'occurrence, après déjà la piètre prestation contre les Saints, on les a quand même sentis beaucoup moins mordants. Et cette différence, ça s'est quand même fait en première mi-temps, avec du coup beaucoup d'espace pour Aaron Jones, un Leighton Van Der Esch qui a été à la rue du début à la fin, et ça a quand même rapidement conditionné l'issue de la rencontre.
Raphaël, on passe du côté Dallas, 3 interceptions pour Dak Prescott, il a quand même lancé 463 yards, mais 3 interceptions ça fait toujours tâche. Est-ce que la magie du début de saison est partie ou alors est-ce que simplement on s'est enflammé alors qu'ils avaient battu que, entre guillemets, les Giants, les Redskins et les Dolphins?
Je dirais que c'est comme souvent, c'est un peu des deux, malgré il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a à mon sens déjà quelques circonstances avec un Tyron Smith et un Lyle Collins qui se blessent en cours de match, qui sont quand même sa paire de tackle. Tous les quarterbacks en cours de match, en perdant leur tackle, sont pas capables de surtout face à ce pass rush là. Ça ajoute à ça, en première mi-temps, mine de rien, Dallas va quand même sur ses 6 drives, va 4 fois dans le camp des Packers, mais ressort avec 0 points. Donc, ça arrive quand même à avancer. La finalisation n'est pas là, ça ne conclut pas très bien, mais tout n'est pas acheté. Il y a quand même des éléments qui peuvent laisser penser que ça peut s'améliorer en cours de saison avec peut-être un peu plus de bon coaching. Et un Mari Cooper qui, quand il s'est mis en route, il a quand même fait ce qu'il voulait de la défense de Green Bay sur la deuxième mi-temps. Voilà, et Dallas a un peu abandonné le jeu au sol aussi parce qu'il y avait beaucoup de points à remonter. Ouais. Mais on les a peut-être vus trop beaux par rapport à leurs premiers affrontements, mais je pense pas non plus que c'est une équipe qu'il faut tout de suite jeter après deux matchs un peu compliqués parce que il y a des rodages encore et voilà, ils vont pouvoir lutter pour les playoffs en NFC et on verra en fin de saison.
Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
On enchaîne, messieurs, après ce petit jingle londonien, avec toutes les autres affiches de la semaine. Et on va commencer par le match du jeudi. Une fois n'est pas coutume, d'habitude, on termine avec celui-là. Mais un, j'ai pas eu le temps d'en parler dans le fauteuil. Et deux, on avait quand même un MVP en puissance sur le terrain avec une très grosse prestation. Ça donne Seahawks 30, Rams 29. Il faut en parler parce qu'on a eu du grand Russell Wilson, touchdown de la gang pour Chris Carson sur une 4e et 5 en fin de match. Et comme on aime bien les classements, messieurs, je vais vous demander... Il est top combien, Russell Wilson, chez les quarterbacks? Top 3, top 2, top 5?
Bah alors, il est forcément derrière Stafford, donc déjà, il se conditionne.
Polémique, tweet clash.
Du coup, ça le met quoi, 15e, s'il est derrière Stafford, non?
Non, mais il est forcément... de base, je pense qu'il était forcément top 5. Là, de ce qu'on voit depuis le début de saison, oui, il est forcément top 3, peut-être, avec Mahomes et Brady. Très clairement.
Ouais. Moi, j'irais même jusqu'à 2 avec Mahomes, mais.
Ouais, bon. Bah pareil.
Bah bon,
pareil après, sur la forme du moment.
Ah oui, non, bah, bon. après, très franchement, c'est le quarterback le plus clutch depuis le début de la saison. Ouais, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec Mahomes. Il n'est pas non plus mieux entouré, je trouve. Enfin, il n'y a pas non plus un casting XXL autour de lui. Il reste avec un receveur rookie à ses côtés, avec un running back qui fait beaucoup de fumbles depuis le début de la saison, même si ça a l'air d'être un peu corrigé.
Et avec un play call offensif un peu moins inspiré que celui d'Andy Reid.
Un peu plus suspect, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, là, très clairement, alors on sait que les Rams, ils sont un peu en convalescence défensive depuis le match contre Tampa. On a vu qu'Akib Talib était encore un peu en PLS, mais en tout cas, il arrive à exploiter ses failles et à permettre à Seattle d'aller chercher des matchs qu'il faut gagner, parce que là, en l'occurrence, c'est un match de division.
C'est pas tout à fait cicatrisé, en effet, du côté de Los Angeles au niveau de la défense, le match précédent. On va dire que Seattle, vous parliez du coaching, est mieux coaché en défense. Parce que par contre, là, ça continue à performer, même sans beaucoup de... Bah, y a quelques actions décisives sur ce match.
Ouais.
Je sais pas s'ils sont vraiment mieux coachés en défense pour le coup, mais... parce que certaines des actions défensives, c'est plus vraiment une action du joueur qui sent le coup que plus un play call, à mon avis, qui permet ça. Et puis, tu profites quand même d'une ligne offensive des Rams qui est toujours à la rue, d'un Jared Goff qui est, bon, hésitant.
Je sais pas, Camille, t'es conquis par la défense de Seattle? Non, apparemment, il a encore quelques réserves sur Ken Norton.
Ils sont plein milieu de classement, grosso modo, en NFL. Ils prennent 350 yards.
Oui, non, mais très franchement, ils ont quand même été complets. C'est vrai qu'il y a des matchs où, malheureusement, en effet, un coup, c'est la défense qui a du mal à suivre. Un coup, et c'est un peu plus souvent le cas, c'est le play calling en attaque qui pose question. Là, je trouve que ce qui est pas mal, c'est que ils ont quand même, sur les match-ups qu'ils avaient, été dominants un peu partout, même sur les équipes spéciales où, généralement, les Rams sont quand même assez solides. Sur ce match-là, Seattle a quand même été extrêmement costaud. Donc, non, ça reste une victoire méritée, même si ça se joue un petit peu sur un coup de dé avec un field goal loupé en fin de match.
Oui, il y a un field goal raté en fin de match. Ils pouvaient perdre.
Voilà, mais en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, Seattle est allé chercher le match et c'est bien qu'ils arrivent à se relancer, je trouve, après ce petit doute qu'on avait pu entrevoir contre New Orleans.
Pour dire un petit mot de l'attaque des Rams, 49 passes encore pour Jared Goff, ça reste très déséquilibré.
Ah bah de toute façon, je pense que McVay, peu importe ce que fera Goff, le match d'après, voulait dire, mec, c'est pas grave, t'es mon gars sûr. Ouais, bah,
ils ont mec qui s'appelle Todd Gurley, qui était quasi MVP il y a un an à la même date.
C'est ça. Est-ce qu'il est tombé amoureux, peut-être, en plongeant dans le regard de Jared?
Je sais pas, mais il y a un truc en tout cas qui va toujours pas avec ça. Saints 31, Buccaneers 24, 314 yards et 4 touchdowns pour Teddy Bridgewater. Ça commence à sentir bon. Bridgewater et toute l'équipe quand même de New Orleans qui augmente son niveau au fur et à mesure des semaines, même sans Drew Brees.
Ouais, Bridgewater, c'est vraiment sa meilleure prestation sous le maillot des Saints sur les quelques matchs. Donc il en a pas fait beaucoup, hein, mais sur les quelques matchs qu'il a eu l'occasion de jouer. C'est, comme tu dis, je pense que c'est vraiment positif pour la franchise, parce qu'on sent que depuis qu'il est titulaire, il progresse de match en match. Donc peut-être qu'il prend de plus en plus en charge, qu'il arrive à comprendre le playbook, on va dire, de Sean Payton. Moi, je l'ai trouvé vraiment en plus meilleur sur ses lectures plus rapides. J'avais trouvé que le premier match, il prenait vachement de temps à lancer la passe. Là, ça a beaucoup moins été le cas. Face à une défense des Buccaneers qui, jusque là, avait pas été trop mal en ce début de saison, en tout cas, ils ont eu.
Pardon.
Il y a eu des bonnes choses contre le sol et il y a chaque Buccaneers
depuis le début de la saison par rapport à ce qu'on attendait. Notamment d'accord. En run stop.
Je suis d'accord, ouais. Ils ont quand même pris que 34 points contre les Giants avec Daniel Jones en quarterback et Saquon Barkley sur la touche.
Je trouve que tu raccourcis la.
Oui, tu es de mauvaise foi.
Je la trouve quand même très perturbante, cette défense de Tampa.
Le run stop est vraiment bon. Enfin, ils ont bloqué McCaffrey semaine 2. Ils ont bloqué Camara plutôt bien sur ce match.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, en l'occurrence, contre la passe, c'est quand même flippant. Ils se sont aussi fait ouvrir la semaine dernière contre Jared Goff.
Ouais, donc, mais dans un match un peu. Dans un match un peu. Bon.
En fait, Tampa, c'est sa passe ou sa casse. Ils ont le meilleur sackeur de la ligue qui fait 3 sacs par match. Et après, quand le sackeur il est pas là, allez-y les gars, on y va. C'est pas possible.
Je serais pas aussi dur, mais.
Ils ont été un peu courts en attaque et aussi à cause d'une défense des Saints. Je disais que tout le monde augmente le niveau de jeu. La défense des Saints limite les Buccaneers à 252 yards. Là, pour le coup, on sait qu'ils peuvent être explosifs, les Buccaneers. Et Marshon Lattimore qui étouffe Mike Evans à zéro réception quand même.
Ouais, il a annihilé complètement là. C'est de pas réussir. Bon, après, il est ciblé 3 fois, 4 fois, je sais plus. Mais bon, normalement, quand tu connais le niveau du bonhomme, tu te dis qu'il y en a au moins un qui va passer. Bah là, en l'occurrence, c'est une bonne chose pour les Saints, puisqu'en effet, je suis souvent très critique sur la défense contre la passe. Mais bon, en tout cas, les Timor a l'air de monter, je trouve, en régime depuis quelques semaines. Et c'est une très, très bonne chose pour les Saints. Même Davenport n'a pas fait un mauvais match sur le pass rush, donc à surveiller.
Après, justement, moi, ce qui continue quand même un tout petit peu à m'inquiéter, c'est la Timor est capable d'éteindre complètement son adversaire, voire presque un côté du terrain. Mais la conséquence, c'est que Chris Godwin est capable de sortir un match à 120 yards et de manger sur la tête des autres cornerbacks.
En même temps, il y a Eli Apple de l'autre côté. Ils peuvent pas avoir deux cornerbacks de super niveau.
Ça m'inquiète un peu pour la fin.
Panthers 34, Jaguars 27, 237 yards gagnés, rien que par Christian McCaffrey. Donc, je crois que Christian McCaffrey, il a le double de l'attaque des Jets cette semaine quasiment, ou un truc dans le genre.
Ouais, enfin,
c'est hallucinant. Troisième match de suite avec au moins 175 yards pour Christian McCaffrey. Est-ce que c'est clairement le troisième homme pour le titre de MVP pour l'instant derrière Mahomes et Wilson?
Oui.
Oui.
Voilà.
J'allais dire qu'il faut saluer Christian McCaffrey et la ligne offensive, parce qu'il y a quand même 285 yards au sol au total pour cette équipe.
Alors c'est toujours compliqué, parce que moi Christian McCaffrey, c'est un super talent, il n'y a pas de problème, il fait vraiment la pluie et le beau temps cette attaque de Carolina. Mais c'est justement ce qui me dérange sur ce match là où est passé le run stop de Jacksonville, bon sang, parce que ils se font marcher dessus alors qu'on sait très bien qu'il faut quand même pas être le et je pense que c'est pour ça que Todd Walsh, le coordinateur défensif, est un peu ciblé par les fans. Faut quand même pas être un génie qui a fait je sais pas combien d'années d'études pour savoir que Carolina, ça va être McCaffrey.
Donc tu te méfiais pas de Kyle Allen, DJ Moore et leurs quatre receveurs de practice squad, quoi.
Un peu moins, vu ce que j'ai vu depuis le début de saison. Là, je suis désolé, je vais pas être vulgaire, mais en tout cas, voilà, peu importe dans quel secteur il jouait, je veux dire, Jacksonville, c'était porte ouverte. Et encore une fois, je ne sais pas minimiser la prestation de McCaffrey. Je veux dire, même Reggie Bonafone les a ouverts au sol.
Alors, autre hypothèse, il s'est dit, j'aurais l'air moins bête en me faisant ouvrir par McCaffrey, parce que c'est déjà une star, que en prenant 200 yards par Greg Olsen.
Après, il y a aussi, enfin, je suis d'accord, ça a été pas forcément tout bien pensé par le coordinateur défensif, mais il y a quand même une capacité de McCaffrey à mettre la misère à ses adversaires. Enfin, j'ai encore en tête son touchdown à la réception où il bat complètement Miles Jack en couverture sur lui, en changeant de côté au dernier moment, des plaquages qui fait rater à Quincy Williams. Enfin, il y a quand même aussi un mec qui est en sur.
Non, mais c'est un match-up cauchemardesque, de toute façon, McCaffrey. Voilà, c'est un joueur insaisissable, je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai que sur ce match-là, je veux dire, le run-stop de Jacksonville, vu le niveau de la défense qu'on voit depuis quelques années quand même. Tu t'attends quand même à autre chose, tu peux pas prendre 250 yards, même de la part d'un phénomène comme ça au sol.
C'est vrai.
D'autant que l'attaque de Jacksonville avait plutôt fait le taf. Fournette est au-dessus de 100 yards, il a 108, et Garner Minshew est à 26 sur 44, 374 yards, 2 touchdowns, ce qui est quand même des stats très élevés pour un rookie du 6e tour qui débarque là. Quoi.
Ouais, après, il y a quand même 2 fumbles de Minshew dans le camp des Panthers qui coûte un peu cher à l'équipe malgré tout, donc mais il fait avancer cette équipe à la passe, ça c'est sûr.
Ah non, mais en tout cas, s'ils veulent un casting pour savoir s'ils peuvent dégager Nick Foles, en tout cas le casting il est parfait, parce que là, vu que à chaque fois il doit aller chercher le match, victoire en fin de quatrième quart, c'est nickel pour Jacksonville. Mais juste pour terminer, parce que je suis très critique sur Carolina, on voit que tout n'est pas parfait, mais ils ont quand même cette capacité aussi à tuer les rencontres quand il faut le faire, notamment avec ce retour de fumble de Brian Burns. Et ça aussi, depuis que Kyle Allen est titulaire, ils ont gagné 3 matchs, alors que Newton en a perdu 2.
Ouais, après, c'est surtout dès que Ron Rivera est dos au mur, bizarrement, il avait été limite d'être viré il y a 3 ans, il avait sorti run incroyable pour sauver, puis derrière, tel Super Bowl, tout ça. Enfin, t'as l'impression que ce mec-là n'arrive à se sortir de la mouille. Enfin,
il a un vrai instinct de survie.
Ouais, il a un instinct de survie assez incroyable, ce qui est pas. Ouais. Bon.
Je sens que Greg voulait gagner du temps en rajoutant un mot sur ce match pour ne pas passer au suivant. Texans 53, Falcons 32. Deshaun Watson à 28 sur 33, 426 yards, 5 touchdowns, évaluation parfaite de 158.3, aucun sac encaissé. Will Fuller, superstar, 14 réceptions, 217 yards et 3 touchdowns. Will Fuller aussi, lui tout seul, a fait mieux que l'attaque des Jets. Les Falcons se sont fait déchirer, ils prennent 592 yards, on se serait cru dans un match universitaire. Alors au moins, t'avais l'impression
d'être Greg.
Ça te rappelait l'NCAA. Est-ce que tu es toujours sûr que Dan Quinn va rester jusqu'à la fin de la saison?
Oh non, mais j'en étais déjà pas sûr la semaine dernière.
Non, mais la dernière fois, j'ai dit il doit être viré après les Titans. Tu m'as dit non, je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison.
Ah bon?
Donc là, est-ce que tu penses toujours que.
On a parlé de Tennessee après le match? J'ai un trou de mémoire. Mais
Avant le match de Tennessee, j'avais demandé si ça coûtait sa place une défaite. Et t'avais dit je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison, même s'il perd.
Ouais, depuis le match des Titans, ça a un peu douché mon enthousiasme. Non, mais jouer à Atlanta en ce moment, c'est un peu comme jouer à Madden en mode facile. C'est un truc où, de toute façon, à un moment donné, tu vas réussir à trouver une petite faille.
Et pourtant, cette semaine, le match a bien commencé. La première mi-temps, il y a 17-16. Oui. Pour une fois, ils étaient bien rentrés dans le match.
Non, mais c'est ça le pire. C'est qu'ils m'ont fait espérer, c'est con quand même. Je me suis dit, ça y est, ils ont commencé le match. Comme en deuxième semaine, ils vont tenir le coup. Et puis bon, au bout d'un moment, tu vois une fois Houston en red zone, tu vois deux fois Houston en red zone, trois fois, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me chiffonne, mais mais voilà, très clairement, enfin. Je l'ai dit au début de saison, de toute façon, Dan Quinn, il a mis son, entre guillemets, sa réputation en jeu en reprenant les appels de jeu défensif. Là, voilà, on voit que ça marche pas. Alors, je sais pas si Arthur Blank tiendra jusqu'à la fin de la saison. Très franchement, même si c'est pas dans la politique du bonhomme de couper les coachs prématurément, je pense que là, au bout d'un moment, va quand même falloir se poser des questions.
Quand tu prends 600 yards, ouais, ça commence à devenir compliqué.
Je crois qu'il joue à Arizona ce week-end, j'ai un doute là-dessus, mais si tu perds à Arizona, je pense que voilà, à 1-5, va peut-être falloir quand même essayer de faire quelque chose, voir si on peut faire autre chose avec ce groupe que ce qu'est en train d'en faire Dan Quinn.
Alors, il va peut-être survivre à Arizona, mais derrière, il y a Rams, Seahawks, Saints, Panthers.
Même pas peur. Ouais, on en prendra moins de 53 avec un peu de chance.
Donc ça fait un peu mal en effet. Raphaël, sur les Falcons, les Texans, pardon, s'ils commencent à avoir une ligne offensive qui se solidifie, ça peut commencer à faire peur, non?
Oui, ça peut commencer à faire peur. Effectivement, on avait vu une ligne qui avait déjà progressé ces deux dernières semaines, même si bon, le pass rush des Falcons ces derniers temps n'est pas forcément incroyable. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur test de la ligue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Watson a vraiment progressé depuis l'an dernier. Les Texans ont leur quarterback. Il y a quelque chose qui se passe en attaque. La défense, il y a quelques doutes encore, et on ne dira jamais assez sur le backfield défensif, mais ça tient globalement.
Mais en fait, la vérité, c'est pas que Houston, en fait, d'une semaine à l'autre, j'ai l'impression qu'on dit jamais la même chose. C'est ça qui est très perturbant avec cette équipe, c'est qu'ils sont toujours dans le coup, mais on dit jamais la même chose. En fait, il y a jamais en fait un point où ils arrivent à être relativement constants, je trouve.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Au final, l'attaque globalement.
Il me semble que la semaine dernière, justement, c'était la défense qui avait sorti le bleu de chauffe contre Carolina et l'attaque avait beaucoup plus patiné. Ouais, là, on se retrouve sur une. Je sais pas. J'ai du mal à trouver de la consistance dans cette.
Je crois qu'on est quand même assez d'accord sur le fait qu'ils ont un très bon quarterback, qu'ils ont un très bon jeu de receveur.
Non, mais du coup, pour moi, ça veut juste dire que le point commun à tout ça, si on arrive à pas se mettre d'accord, c'est Bill O'Brien. Voilà.
Souvent, en fait, quand on est trop dispersé sur une équipe, il faut en revenir au coaching.
Non, mais en plus, c'est même pas forcément sur ce pauvre Bill O'Brien. On pourrait continuer deux minutes, mais c'est pas tant une critique. Il y a des coachs qui sont capables de faire d'une équipe assez solide, de l'amener à un certain niveau, mais il y a un palier. Et je pense que les Texans passeront pas de palier avec lui. Donc,
Rex Ryan, il l'a fait pendant des années. Hein.
C'est vrai. Bon, mais de toute façon, il n'y a pas, il n'y a pas 15 coachs ou 10 coachs en NFL qui sont capables de faire passer ce palier. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tournent et qu'on retrouve. Hein.
Bah, j'ai cité Rex Ryan, mais il y a Marvin Lewis aussi.
Non, mais voilà, il y en a plein qui sont là, qui tournent tous les Mullarkey, les machins, Marvin les trucs Lewis, qui tournent à Tennessee depuis 10 ans, Jeff Fisher.
Mullarkey, c'était pas aussi régulier. Non, Bill O'Brien, il a vraiment des fiches quand même assez régulières. Il va souvent en playoff. Mais bon, après,
Vois ce que je veux dire, tous ces coachs remplaçables, il y en a des tonnes. Titans 7, Bills 14. Est-ce que les Bills ont la meilleure défense de la NFL, messieurs? 5 sacks, ils ont toujours pas pris de plus de 17 points cette année dans un match. Ça se défend, là,
Ouais, moi, au début de saison, je disais que j'étais quand même optimiste sur le fait qu'ils puissent finir top 5 défense de la ligue. C'est toujours la même chose. Ils affrontent toujours pas que des cadors. Mmh. Ils ont joué que les Pats en gros morceaux. Mais c'est vrai que la défense a fait bonne figure quand même. Mmh. Après, bon, là, ils sont encore tombés sur un match où ils ont quand même été très opportunistes. Ils ont aussi profité, manifestement, d'un kicker un peu déboussolé.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait des gros problèmes de coups de pied. Kairos Santos qui a été coupé, hein, d'ailleurs, depuis. Parce qu'il a loupé 4 field goals.
Ouais, ou 3. C'est ça.
4.
Ah, quand ça se joue à 7 points, au bout d'un moment, ça fait cher.
C'est embêtant, il y a 12 points qui sont partis.
Après, donc, les Bills, le problème, c'est que là, j'ai un peu peur qu'on se répète toute la saison sur les Bills et l'analyse de leur match. Enfin, globalement, c'est quand même un copier-coller chaque match. Et avec un peu de chance.
Eux, ils sont réguliers, hein.
Ah oui, ah bah ça, régulier dans les points pris, régulier dans les points mis, ça au moins, c'est sûr que c'est.
Non, mais après, pour le coup, on sait que je suis pas un grand fan de Josh Allen depuis sa sortie de collège. Pour le coup, on voit que, par exemple, Chase Daniel ou Mitch Trubisky, avec Chicago, même avec une grosse défense, ils arrivent à perdre. Josh Allen, même si la concurrence, même si l'adversité est relative sur les premières semaines de Buffalo. Les matchs, il les perd pas.
Ouais.
Allen, il gagne moche aussi, quoi.
Ah, mais je suis d'accord avec vous.
Non, mais il gagne même
après,
pas.
Après, si je vais être de mauvaise foi jusqu'au bout, je dirais que le seul match qu'a perdu Buffalo, Allen était en protocole commotion.
Ouais.
Non, mais voilà, de toute façon, comme l'a dit Raphaël, oui, ça va pas être beau jusqu'au bout. Ouais.
Est-ce que les Titans commencent à avoir un problème de ligne offensive, qui était un de leurs points forts, et là, ça commence à diminuer
un petit
peu.
Continue, tu veux dire.
Oui.
Parce que c'est la pire équipe en termes de sacs, je crois qu'ils sont à 22, non?
C'est très possible, j'ai pas la
stat. Oui, après, l'ami Marcus, il est quand même pas toujours blanc sur les sacs encaissés. Attends, moi je trouve qu'on lui a quand même fourni quelques armes offensives. Il se passe toujours rien du côté de Tennessee à ce niveau-là. Il y a des décisions de coaching. Moi, je comprends pas cette décision de taper un field goal de 53 yards après les 3 premiers ratés. Plutôt que de jouer une 4 et 4 sur les 36 yards de Buffalo.
Parce que t'as Marcus Mariota, Raphaël, bon sang.
En fait, c'est pas Bill O'Brien, c'est Marcus Mariota. On en revient à la même chose aussi.
Je suis d'accord avec
Raphaël, il a Derrick Henry, il a eu des armes en attaque, ils lui ont mis plein de receveurs.
Vous pouvez pas me dire que la O-line, elle est bonne depuis le début de la saison, c'est pas possible. Ils ont signé à prix d'or un Roger Saffold qui est catastrophique sur le pass pro depuis le début de la saison. C'est pas normal.
C'est pas ce qu'on dit.
Non, mais Mariota n'élève le niveau de rien depuis 4 ans.
Si c'est pas un mec qui met 3 minutes à lire ce qui se passe face à lui, il n'y a pas 9 sacs par match, il y en a plus que 4.
Je trouve que vous exagérez un petit peu ses lacunes. Propos, c'est pas de dire que Mariota c'est un super quarterback. On le voit tous que de toute façon, voilà, il n'aura jamais vraiment le niveau d'un franchise quarterback. Mais
bon, alors pourquoi on se prend la tête?
Non, mais,
on exagère.
Chose, hein, mais franchement, quoi.
Attends, on exagère ses lacunes parce que c'est impossible d'exagérer ses qualités.
Vous êtes méchants, hein. Franchement, c'est pas bien, les gars. Non, mais voilà, je veux dire. Franchement, là, avec une line pareille, bon, je sais pas. Deshaun Watson, c'est pas la même chose, mais bon.
Deshaun Watson, on dit c'est à cause de la ligne.
Marcus Mariota, on dit c'est Marcus Mariota.
Oui, mais Deshaun Watson, avec cette ligne-là, regarde ce qu'il fait avec sa ligne.
Ils ont deux lignes pourries. Bah,
oui, mais oui, attends, mais regarde, Mariota, il a raison.
Il a gagné deux matchs. Dans les deux matchs que gagne Tennessee, alors, il joue des équipes qui ont une inconstance chronique, à savoir Cleveland et Atlanta, mais je veux dire, sur les deux matchs, il rend une copie propre. Après, sur les matchs où la O-line n'est pas là, bah oui, Slicky Fee aussi.
Mariota, il a jamais été sorti un match. Enfin. Il a jamais fait le genre de prestation que Watson a fait depuis qu'il est dans la ligue, avec une ligne offensive moins bonne sur le.
Mais ça, on est d'accord qu'il est moins bon. Mais minimisez pas le fait que ce soit la ligne offensive qui pose problème, parce que c'est Mariota.
Moi, je suis d'accord avec Raphaël. Donne cette ligne offensive des Titans des trois dernières années à Watson ou à Wilson. Les mecs, ils sont faire un pick avant de lancer et ils sont MVP.
Non, mais sans doute. Mais c'est pas à mettre de côté, je trouve, quand même.
Bah, non, mais on met pas de côté. Mais du coup,
Mais du coup, il est nul.
Steelers 23, Ravens 26. Match marqué par la terrible image de Mason Rudolph, Mika par Earl Thomas. Mais Devlin Hodges, quarterback non drafté, ne s'est pas démonté. Il a mené son équipe à un touchdown, puis aux prolongations. Les Ravens s'en sortent grâce à Justin Tucker, leur kicker évidemment, mais c'était compliqué. Lamar Jackson a été intercepté 3 fois, lui aussi retombe sur terre ces dernières semaines. Raphaël, tu hoches beaucoup la tête.
C'était vraiment pas un beau match, beaucoup de pénalités, beaucoup de faux rythmes, jamais aucune des deux équipes n'a vraiment pris l'ascendant sur l'autre. C'est comme tu dis, Jackson sort probablement son pire match, malgré le fait qu'en plus le jeu au sol n'était pas tant en difficulté que ça sur l'ensemble du match. C'était pas la meilleure prestation des Ravens au sol, hein, mais c'était pas non plus une catastrophe. Ouais, un match vraiment pas bon des deux côtés du ballon et pour les deux équipes, j'ai trouvé, donc bon.
C'est dur pour Pittsburgh, Grégory, je trouve, parce que leur défense monte en puissance. Mais ils se retrouvent à jongler, ils vont en être à leur troisième quarterback. Et finalement, il y a du potentiel, moi, je trouve, dans cette défense.
Oui, non, mais très clairement, il leur manque de toute façon depuis le début de la saison. Ils ne passent pas très, très loin. Encore une fois, on en parlait, mais le match à San Francisco, par exemple, contre une équipe qui est encore invaincue à l'heure actuelle, ce match-là, dans un contexte de 2018, par exemple, ils le gagnent 9 fois sur 10. Mmh. Donc là, c'est sûr qu'a priori, toutes les planètes ne sont pas alignées du côté de Pittsburgh. Il y a beaucoup de compartiments où ça passe. Mais il y a des compartiments, notamment offensivement, où c'est un peu plus compliqué. Après, c'est vrai que sur ce match-là, Pittsburgh, on connaît les difficultés depuis le début de la saison et le fait qu'en effet, il leur manque leur principal playmaker offensif. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi Baltimore qui les a longtemps laissés dans le match. Je trouve que c'est quand même pas normal quant à les prétentions qu'ont les Ravens avec les investissements qui ont été les leurs, de te retrouver, même si c'est un match de division, en effet, on contextualise toujours... pour dire que ces rencontres sont jamais gagnées d'avance et jamais faciles, même encore plus à l'extérieur. Mais voilà, tu joues le troisième quarterback en face, quoi. Ouais, un mec qui a jamais joué un snap et dès sa première série, il marque un touchdown ou ils arrivent en zone rouge. Enfin, à un moment donné, ça me pose question. Je le dis, la défense m'interroge de plus en plus du côté de Baltimore ces dernières semaines. Lamar Jackson, en effet, bon bah voilà, je veux dire, il y a des semaines où ça va être très bon. Là, en l'occurrence, on était sur du beaucoup moins bon. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qu'on présentait comme le futur vainqueur de la AFC Nord. Ça va peut-être être un peu plus vers du 9-7 et puis ces fameuses équipes qui vont batailler pour les playoffs.
Ça le sera sans doute quand même, hein, mais
Oui, ils ont de la chance que les Browns se cassent la tronche aussi, donc ils restent devant fatalement.
Bah, on a que des équipes négatives dans la AFC Nord, si je sais compter.
Ouais.
Oui.
Sauf Ravens, du coup, mais
ils sont à 3-2, pardon. Oui, pardon.
Ils sont en neutre. Mais oui, non, a priori, ils sont pas largués. C'est vrai que c'est une des divisions qui est les plus basses au niveau. Mmh. Je suis en train de vérifier. Donc, non, 3-2, Baltimore. Ils sont pas neutres, hein, d'ailleurs. Ils sont à 3-2.
Oui,
avec cette victoire. Et donc, derrière, 2-3, 1-4 et 0-5. Donc, ça va être lutte entre Cleveland et Baltimore, déjà.
En tout cas, je suis très critique, mais super Marlon Humphrey, comme toujours, qui sauve le match pour Baltimore. Et c'est bien de le mettre en avant, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je suis très critique sur cette défense.
Après avoir atteint super corner. Odell Beckham la semaine dernière, enfin, clairement, il fait une vraie belle saison. Ouais.
Messieurs, Chargers 13, Broncos 20. Peut-être que les Chargers finalement n'avaient pas besoin de Melvin Gordon qui est revenu pour signer 31 yards sur 12 courses à 2,6 yards par course. Ça valait le coup d'une bonne grève. Alors il faut vraiment qu'on détaille bien ce qui s'est passé ou pas passé parce qu'on nous a fait amicalement remarquer qu'on n'avait pas assez parlé des Chargers la semaine dernière. Donc je vais résumer 246 yards en attaque, 2 interceptions pour Philip Rivers, punt, interception, field goal manqué, fumble en première mi-temps. Punt, interception pour commencer la deuxième mi-temps, avant de sauver l'honneur en fin de match. Est-ce que c'était juste un jour sans pour l'attaque ou est-ce qu'il y a un souci plus profond ?
Ah, moi, je pense que sur l'attaque, il y a un souci plus profond. Globalement, depuis le début de la saison, je suis pas forcément convaincu par l'attaque. C'est pas ce qui m'inquiète le plus chez les Chargers, hein, mais je suis pas totalement convaincu. Je trouve que, paradoxalement, le retour de Gordon leur a pas fait du bien en donnant moins de portée à Austin Eckler. Mmh. Il a été beaucoup ciblé avec 15 réceptions sur le jeu de passe, donc là-dessus, ils l'ont beaucoup utilisé. C'est son record, mais au sol, ils l'ont oublié. T'as une ligne offensive en grande, grande difficulté. Ça commence à faire un petit moment, ouais, depuis ce début de saison, effectivement. Un Keenan Allen qui s'est fait totalement éteindre par Chris Harris Jr. Du côté de Denver. Donc, on a une attaque très moyenne et un run stop que moi j'identifiais comme une des grosses faiblesses de cette équipe avant la saison et qui confirme là en.
Après défensivement, c'est pareil, ils ont une infirmerie pleine aussi, c'est compliqué. Maintenant, ils ont le backup du backup qui joue en défense, c'est un peu compliqué maintenant.
Ouais, mais Greg, bientôt on pourra dire ça pour toutes les équipes.
Oui, mais enfin, prend des proportions quand même qui sont assez importantes. On sait que normalement, la défense des Chargers, coachée par Gus Bradley, ça vaut quand même beaucoup plus que ce que ça montre à l'heure actuelle. Et en l'occurrence, ils prennent pas 50 points contre Denver. Il y a ce début de match qui leur coûte très cher, en effet, avec des erreurs d'assignation, notamment sur le touchdown de Courtland Sutton. Et défensivement, je serais moins sévère. Après, offensivement, bon, Philippe Rivers, on connaît mes réserves là-dessus, mais je vous rejoins. Melvin Gordon, le problème, c'est que tu peux pas le faire venir et le mettre dans un rôle de numéro 2 dans un premier temps derrière Austin Eckler. Donc je pense qu'ils vont se traîner ça. Peut-être qu'ils vont attendre la période la période des trades, on va dire, qui va arriver dans peu de temps, je pense d'ailleurs, pour éventuellement essayer.
C'est ouvert, s'ils veulent envoyer quelqu'un, ils peuvent.
Oui, mais voilà, mais on sait comment ça se passe au niveau de la deadline, les joueurs justement qui sont bientôt en fin de contrat, on essaye de leur trouver un petit point dessus. Ça m'étonnerait pas que Gordon soit dans le coup. Mais oui, pour le coup, les play call offensifs. Je veux dire, t'es en zone rouge, tu fais rentrer Tyrod Taylor pour un jeu tout moisi. Je veux dire, à un moment donné, il y a suffisamment d'instabilité en interne entre les blessures, on va dire les doutes sur la ligne offensive, l'irrégularité de Philippe Rivers. T'es obligé de te rajouter ça pour casser le rythme alors que t'arrives enfin à atteindre la zone rouge adverse. Il y a des choses qui me posent question, mais bon, après, le coaching façon Anthony Lynn, on sait que ça reste encore un peu contestable.
Après, blessure ou pas, moi je suis d'accord avec Raphaël, ils prennent quand même 120 yards au sol par match, ils en prennent 191 sur ce match-là, donc blessure ou pas, c'est quand même un problème inquiétant.
Ils jouent Denver, c'est au sol, c'est pas non plus...
Ah bah alors oui, évidemment, oui, mais bon...
C'est pas Jacksonville qui prend 250 yards par McCaffrey, quoi.
Non, mais bon, le plan de jeu, c'est de stopper les forces de l'équipe adverse, donc si t'en prends 191...
Ouais, bon, tu
perds le match. Donc première victoire des Broncos, est-ce que c'est rassurant pour eux? Ils ont toujours pas de sac, hein, par contre, ils ont intercepté deux fois Philippe Rivers. Mais ils n'ont pas de sac.
Ils n'étaient pas passés loin les deux dernières semaines, les Broncos de l'emporter, notamment la semaine dernière où ils perdent sur un field goal.
Oui. Cette saison, ils ont des sacs, on est d'accord.
Oui, sur les derniers matchs. Sac.
Ah pardon, ouais, mais pas dans ce match-là.
Juste pour être sûr que je comprenne ce que tu dis. Oui, sur ce match-là, il y a encore eu quelques... Non, mais ils ne sont pas passés loin.
Ils ne passent pas loin. Là, du coup, ils ont réussi à prendre le match et à ne pas le lâcher cette fois, même si les Chargers reviennent bien en fin de match. Bon, on a un peu les mêmes éléments. T'as un jeu au sol qui a réussi à s'installer, Flacco qui fait quelques bons lancers par-ci par-là pour débloquer un peu la situation, et après une défense qui est...
Ça reste ultra faiblard, quoi. Enfin,
ils sont un peu sauvés quand même par cette interception en end zone. Mmh. Je sais plus quel est le nom du DB. Mais faiblard, je te dis franchement, ça faisait quand même plusieurs semaines que j'étais assez séduit par cette équipe de Denver qui passait pas loin mais qui arrivait pas justement à concrétiser. Peut-être que ça peut être cette victoire d'éclite qu'on attendait du côté du Colorado, et j'attends de voir cette équipe de Denver. Je pense que elle peut s'en sortir avec une petite saison à 5-11, on va dire, pour bien préparer la saison prochaine. Je serais pas étonné.
Ah oui, voilà, oui, d'accord. Quand je croyais que
je te parle pas de
plus. Oui, 5, c'est le plafond. Hein.
Ils étaient à 0-4 quand même.
Moi, je suis comme Raphaël, ça reste très médiocre. Il va y avoir des bons passages en attaque comme des passages où il y aura rien. Et la défense peut être bonne, mais elle l'est pas vraiment depuis le début de la saison.
Si 5-11, c'est pas médiocre. Enfin, c'est même moins que médiocre.
Non, mais c'est encore.
Après, toutes les équipes avec un bilan négatif en NFL ne sont pas mauvaises.
T'as le 5-11 des Broncos et t'auras le 5-11 des Falcons, quoi. Je veux dire, t'attends pas du tout la même chose.
C'est vrai.
Denver, ils sont quand même en grosse reconstruction, quoi.
Mais en parlant d'attente.
Avec Flacco.
Oui, avec Flacco. Mais ils ont Drew Lock qui jouera l'année prochaine.
D'ailleurs, mais dans la blessure, on a eu, on le testait d'ici peu. Excuse-moi, là, vas-y.
Il était pas blessé?
Si, justement, mais je pense qu'il va revenir d'ici la fin de la saison, je pense.
En parlant d'attente, Redskins 7, Patriots 33, Jay Gruden est viré. C'est à peu près logique, on ne va pas épiloguer là-dessus. Qui vous voulez en coach maintenant pour cette équipe de Washington?
Moi, j'ai très peur. Très franchement,
très
j'ai
peur,
vu,
c'est
j'ai
à
vu,
dire.
J'ai vu les premiers noms qui circulent. J'ai froid dans le dos. J'espère que cette news que j'ai vue, comme quoi ils réfléchiraient au fait. Non. Comme quoi ils réfléchiraient au fait de potentiellement engager leur coordinateur offensif, Kevin O'Connell. Parce que les anciens coordinateurs offensifs, Sean McVay, Kyle Shanahan et Matt LaFleur, sont devenus être coach.
La loi des séries, mon gars.
J'espère que c'est pas vrai, parce que sinon, mais c'est le raisonnement le plus con que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc franchement, j'espère que.
Mais les gars, ils ont dit, il a 34 ans, c'est une future star. Ouais, on n'embauche plus au-dessus de 40 ans, c'est mort.
Ouais, non,
mais
alors, moi, je vais te dire... Écoute, quarterback irlandais, c'est bien, c'est à la mode en NFL. Ouais.
Je vais te dire, tant qu'on est dans les hypothèses, moi, celle d'un trade pour Mike Tomlin, elle me réjouit grandement, parce que il y avait quelqu'un sur Twitter hier qui nous disait, moi, j'aime bien la direction que prend la franchise, et ils ont plein de choix de draft, etc. Et j'avais répondu, t'inquiète pas, ils vont faire quelque chose pour faire foirer tout ça. Ils vont envoyer un ou deux tours de draft pour récupérer Mike Tomlin, et puis comme ça, ils vont mettre fin à la.
Qu'est-ce que ça va? Tu
vous êtes dur là.
Tu laisses pas partir un mec comme Grodon pour récupérer un mec comme Tomlin, quoi. Je veux dire, le but du jeu, c'est
magique.
Quoi? Non, mais le but du jeu, c'est quand même d'assainir le vestiaire. On peut dire ce qu'on veut sur Tomlin. Il arrive à Pittsburgh. Je veux dire, Bill Cowher, il a fait le ménage, il a passé le balai. Enfin, je veux dire, le gars, il arrive, il a juste à mettre les chaussons.
Et
à...
Non,
mais
franchement,
mais moi, je trouverais ça génial.
C'est
la... Ce serait
attendez,
une vraie décision à la Dan Snyder. Ce serait un beau caprice. Il balance des choix de draft.
Mike Tomlin, ça fait des années que les Steelers sont minimum sérieux des prétendants aux playoffs tous les ans pour repartir à zéro avec un quarterback. Excusez-moi, Mike Tomlin, ça pose des fondations.
Tu peux pas dire qu'à Pittsburgh, quand il arrive, je veux dire, le mec,
non, c'est pas le contexte
le
plus difficile.
Il est pas mis dans du coton, quoi. Je veux dire, il a dit que le beau en coordinateur défensif
pas le contexte
pendant 5
le plus
ou 6
difficile.
Saisons, quoi.
Oui, mais derrière, il n'y a jamais de saison catastrophique du côté des Steelers.
Mais oui, mais parce qu'il est champion la deuxième année.
Oui, mais attends, ça fait 10 ans maintenant. Tu peux pas dire qu'au bout de 10 ans, il continue de profiter de l'effet Bill Cowher.
Il renouvelle bien. Mais bon, il a profité de fondations solides. Il a toujours eu le même quarterback. Il a une défense où il a pu bien travailler et renouveler les.
Bah oui, donc il a sa part dedans.
Je me mets en arbitre entre vous deux, mais quand je disais que ce serait une mauvaise décision, Raphaël, je parlais pas des qualités de coach de Mike Tomlin. Ce serait pas un mauvais choix en soi. Ce serait juste si je sens Dan Snyder assez dingue pour envoyer un deuxième tour ou un premier tour de draft pour récupérer.
Ça me ferait rire. Moi, mon propos, c'est qu'il faut assainir le vestiaire. Je veux dire, Grodon, il s'est mis à dos Trent Williams, il s'est mis à dos Adrian Peterson. Il y a plein de mecs qu'il faut que tu calmes un peu en interne. Didier Swanger l'année dernière que t'as cuté après s'être embrouillé avec le coordinateur défensif. Bon sang, amener un peu de stabilité et de calme dans le vestiaire, quoi.
Tomlin, quand ça se passe pas,
qui nous fait péter les plombs tous les receveurs des Steelers chaque année.
Quand ça se passe pas, il les vire et c'est réglé.
Tu connais un coach à qui Adrian Peterson n'en veut pas? Parce qu'ils s'embrouillaient avec Sean Payton,
Gordon,
ils s'embrouillaient avec Minnesota.
Mais bon, écoute, Minnesota, oui. Bah. Brad Childress,
aussi, tu vois.
Engagé Brad Childress à Washington.
Non mais Adrian Peterson, à partir du moment où il a pas 400 ballons par match, il est pas content de toute façon. Donc c'est quand même hors concours, quoi, dans la plainte Adrian Peterson. Juste, plus sérieusement par contre, est-ce qu'on a une idée de coach ou pas? Est-ce que vous, alors je veux pas de nom, mais je veux dire, est-ce que vous préférez qu'il prenne un coach offensif pour Haskins ou reconstruire la défense ou voilà, qu'est-ce que vous préférez?
De toute façon, Schneider a toujours été plus fan d'un coach offensif. J'ai très peu d'exemples d'un coach défensif qui est engagé par Washington sous sa coupe. Alors oui, en effet, si c'est Tomlin, un ancien coach qui a gagné un Super Bowl, ça peut le tenter, mais très franchement, j'irais plutôt vers un coach offensif, surtout avec le fait qu'il ait drafté un quarterback l'année dernière.
Raphaël.
Ouais, j'irais plutôt sur le défensif et bien s'entourer avec un bon coordinateur offensif pour son rookie, qui se concentre sur le rookie et le head coach peut s'intéresser un peu à d'autres points sans forcément être un quarterback gourou.
Tu penses que Gay, il sera sur le marché ou pas? Pardon.
Après, encore une fois, moi je modère. Évidemment, Jay Gruden avait ses torts, il était temps de tourner la page. Mais tant que Dan Snyder est à la tête de cette franchise et qu'ils sont gérés comme ils sont gérés, il n'y a qu'à voir l'effectif. C'est vrai que Gruden n'a pas tout à fait tort quand il dit je dois composer avec les joueurs qu'on me donne. Il suffit de voir leur situation au poste de quarterback. Aujourd'hui, ils sont quand même officiellement
en attaque.
En attaque
oui, en défense, il y a quand même quelques talents.
Oui, oui.
Pas...
Mais je veux dire, en attaque, quand Greg, tu dis, il s'est embrouillé avec Trent Williams, il a l'air surtout fâché avec les médecins de la franchise qui essayent de tuer la moitié des joueurs parce qu'ils ont tous des surinfections à chaque fois qu'ils se font opérer. Colt McCoy, il avait une entorse ou un truc, ça lui a mis 8 mois à se remettre. Donc, dans leur effectif, ils ont 4 quarterbacks, Alex Smith, Colt McCoy et Keenum, qui sont quand même plus ou moins similaires ou des versions pimpées les uns des autres, et Dwayne Haskins, qui est le petit nouveau. Mais donc, c'est pareil, tu vois, tu composes avec une sorte de bouillie comme ça. Gruden, il voulait pas de l'un ou de l'autre, on sait pas, enfin, et je suis pas sûr que ce soit mieux pour le prochain coach, à part si c'est un super coach à qui il donne les pleins pouvoirs, je sais pas, il craque, il prenne Arbo, il lui donne tous les pouvoirs.
Ah non, mais de toute façon,
il faut virer le GM, quoi.
De toute façon, faut qu'il dégage gros salade, moi je suis d'accord avec toi là-dessus.
Voilà. Un mot sur les Patriots, ils ont autorisé 34 points en 5 matchs face à des oppositions très faibles. Grande défense ou on attend encore un test?
Moi j'attends encore un test, hein. Perso.
J'attends un test, mais je pense qu'il y a le potentiel pour être une très bonne défense quand même. Enfin,
parce que là,
de talent.
Je veux dire, en termes d'attaque, Buffalo, Jets,
oui, non,
Miami,
mais c'est sûr. Non, mais oui, tu peux pas avoir
Miami, non, Washington, ah. Je dirais, laisse tomber.
Faut attendre le match contre les Chiefs, semaine je sais plus combien, mais ils l'ont c'est dans le calendrier. Tard, ouais.
On enchaîne, messieurs, on va accélérer un petit peu sur les derniers matchs. Là, on attaque du très très lourd. Eagles 31, Jets 6, 10 sacks et 2 touchdowns défensifs pour les Eagles. 16 quarterback hits, 128 yards au total pour les Jets. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce match. Les Eagles sont le minimum en attaque, 265 yards, un seul ballon perdu contre 3 pour les Jets. La bonne nouvelle, on l'a appris avant l'émission, c'est que Sam Darnold va revenir parce que Luke Falk avait l'air un tout petit peu débordé.
Ouais, enfin bon, Sam Darnold, il peut revenir si la ligne offensive est à ce niveau-là...
Ouais. Ah bah ils ont bien fait de pas le faire jouer parce qu'apparemment il avait une rate enflée et il risquait de mourir s'il prenait un coup.
Moi je veux bien, il y a beaucoup de blessés chez les Jets, hein, mais bon, il paraît que Kelvin Beachum, Brian Winters, tout ça c'est des titulaires. Même Brian Khalil, ils arrivent à le rendre mauvais, donc à un moment donné, je sais pas, mais bon.
Alors je reformule ma question, est-ce que vous pensez qu'Adam Gase peut avoir l'air suffisamment ridicule pour se faire virer dès sa première année? Raphaël, t'étais un grand fan de cette embauche.
Ah bah écoute, moi c'est ce que je pense, et en plus il y a quelques médias new-yorkais qui rapportent de plus en plus de mésententes entre Greg Williams et Adam Gase. Ce qu'on avait aussi déclaré en pré-saison en disant que le cocktail des deux était absolument explosif dans le contexte new-yorkais, donc tout va exploser. Greg l'a dit, avec une ligne offensive comme ça de toute façon il y a absolument pas grand chose à faire. Pour donner une stat, les coureurs des Jets sont en moyenne 1,5 yards. Ils peuvent courir 1,5 yard avant d'avoir un adversaire sur eux, ce qui est la plus faible moyenne avant contact de la ligue. Voilà.
Non, et puis juste pour terminer sur la ligne offensive, ils jouent quand même les Eagles dans ce match-là, qui avait le pire, parce qu'il y avait Denver juste derrière, mais un des pires pass rush de la ligue avant ce match-là. Le mec, il passe à 10 en un match.
Pour l'anecdote, Philadelphie est montée de 20 places au classement des sacks après ce match.
Ça va vite, hein.
C'est ouf.
Ça va comme quoi, vite. Les stats, bon, faut aussi toujours les prendre avec quelques pincettes, parce que quand tu vois ça.
C'est sûr. Giants 10, pardon, Vikings 28, un bon Kirk Cousins cette semaine, un bon Dalvin Cook avec 218 yards gagnés au total, 130 yards et 2 touchdowns pour Adam Thielen, match impeccable, on a vu les bons Vikings face à des Giants qui à nouveau ont montré qu'en défense ils auraient du mal.
Ouais
soyez pas timide, hein, j'ai dit qu'on accélérait un peu sur les derniers matchs, mais vous pouvez encore parler.
Non mais c'est bien, au moins ils se sont rabibochés, Cousins et Thielen, c'était important. Après, est-ce que vraiment tu jauges le retour en forme de Minnesota sur ce match-là, j'en suis pas sûr. Les Giants qui repèrent encore un running back avec la sortie de Wayne Goldman. Il y a Sterling Shepard qui a repris une commo, je crois, avec Evan Ingram,
oui,
qui est blessé,
ça.
Qui devrait manquer le match contre New England. Donc ça risque d'être une petite boucherie. Le test pour New England ne sera sans doute pas face aux Giants.
C'est vrai. Alors Daniel Jones, qui était quand même un des phénomènes, là ça se calme un peu. 21 sur 38, 182 yards, un touchdown, une interception. On l'avait dit, c'est prévisible pour un rookie, Raphaël.
Oui, c'est ça, on l'avait dit, c'est prévisible. Il perd des armes à chaque match. Plus les matchs passent, moins il a d'armes.
Et puis, fil rouge, ligne offensive a souffert aussi.
Voilà, Nate Solder, notamment, a particulièrement souffert de son left tackle face à une très grosse défense des Vikings. Bon, pas de grande surprise.
Pardon, on termine avec les Bengals, 23 contre les Cardinals, 26. Les moins mauvais ont gagné. Un field goal en fin de match pour la victoire dans ce match qui semblait plutôt brouillon. Mais on a quand même un fait significatif. Seulement 32 passes contre 38 courses pour les Cardinals. Est-ce qu'il reviendrait finalement à un jeu plus traditionnel et qu'on nous avait encore survendu la révolution Cliff Kingsbury, le rythme, l'air, machin.
T'as combien de courses de Kyler Murray sur tes 38?
Alors, j'ai pas fait le décompte, mais il y a plus de courses que de passes.
Il y a quelques courses
quand même...
improvisées. Mais
Oui, mais il lançait en moyenne 45 passes par match. Donc
oui, non, je suis d'accord avec toi, mais là, Ce qui est bien, c'est qu'au moins Kyler Murray justement reste pas dans un style hyper. Je pense qu'il a compris de toute façon que maintenant avec sa O-line, s'il attendait de rester derrière, il allait finir couché. Donc de toute façon, maintenant il essaie d'improviser également, de trouver d'autres solutions. Et c'est à l'image de ce dernier drive justement où il va chercher les first downs qui sont importants pour mettre en bonne position de Zane Gonzalez. Donc non, c'est bien, je trouve qu'il y a déjà cette maturité, cette intelligence de jeu de la part de Kyler Murray. J'en doutais pas trop, c'est plus d'autres caractéristiques en termes de lecture qui m'interrogent, mais en tout cas non, sur ce match-là il a pas démérité. Et non, du côté d'Arizona, tu le disais, c'est la moins mauvaise équipe qui a gagné, mais bon, il y a des bonnes bases, je trouve. David Johnson a apporté une alternance assez intéressante. Chase Edmond également qui marque en plus un TD. Donc non, ça se met en place doucement, mais on sort quand même un peu moins de ce. Enfin, on sort quand même, je trouve, un peu moins du style conservateur qu'on pouvait voir de la part de Cliff Kingsbury depuis le début de la saison. Même si en zone rouge, ça reste toujours un petit peu touchy.
Raphaël, un mot sur ce match ou on passe à la suite ?
On peut passer à la suite.
On passe à la suite. La suite, c'est le répondeur.
Yo, 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 1-4-8, 3-3, 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it to tone.
Bonsoir à tous, message en direction du Super Bowl, du départ du train Aaron Jones de Green Bay. Je répète, départ imminent.
Michel pour Touchdown Actu et toute l'équipe. Les Falcons, c'est des clowns. La défense, c'est des clowns. Ce que vient faire Deshaun Watson, il perd le ballon, il le récupère, il gagne la première tentative pour finir ensuite dans les 5 yards. Enfin, sur les jeux d'après, c'est incroyable.
Hello, hello, c'est Bachi de Madagascar encore. Je suis dans ma voiture, dans les embouteillages, dans le fameux quartier d'Ambuzatou, Verne à laquelle. Je me faisais une réflexion, il y a 25% des yards gagnés hier soir, soit 3500 yards ou 3 km 100 et quelques, étaient des yards gagnés à la course. Alors est-ce que c'est le retour de la course maintenant dans les nouveaux schémas d'attaque NFL ? Il me semble que les pourcentages étaient moins élevés, mais surtout, on occulte quelque chose d'important que je viens de remarquer. Est-ce qu'on peut débattre sur la défense des Patriots et en faire une des MVP de cette année ? Allez, allez, on se quitte en musique ! Bon, non, pas cette fois-ci, je sais, ça pique les oreilles. When the Saints go marching in. Salut !
Hello la team, c'est Benoît de Roubaix. Gros supporter des Niners, mais là je dois dire, what the fuck, c'est quoi cette réception de Tyler Lockett ? Grandiose, mais si OBJ fait ça, ça fait le tour des réseaux sociaux. Allez, bon vent à vous.
Salut à tous, TD Actu. Je vais garder secret mon nom, mon identité, parce que la question que je vais poser va sûrement provoquer quelques remous. Je voulais savoir, de par votre expérience, notamment au niveau des réseaux sociaux, si vous deviez faire un ranking, en fait, des communautés de fans françaises. Voilà, c'est au moins le top 3 et le flop 3, selon vous, et puis, bah, pourquoi? Voilà, comme, vous faites des rankings sur à peu près tout ce qui bouge, autant en profiter pour le faire aussi sur les communautés françaises. Voilà, merci à tous, à bientôt.
Alors messieurs, suite à ce répondeur, vous êtes inspirés. Quels sont les supporters les plus cools et les plus durs sur les réseaux sociaux ? On va se mouiller bien sûr. On est parti ? Alors oui. Raphaël, le numéro 1 c'est
le numéro 1 dans quel sens ? Vers le bas ou vers le haut ?
Bah vas-y, il faut balancer un nom. Le numéro 1 c'est...
Tu sais très bien qu'il attend le bas lui.
je vais dire c'est les...
Les tops et les flops, messieurs, on a entendu Raphaël lâcher un nom, mais on ne saura pas plus si c'était vers le haut ou vers le bas. On ne veut pas... Non mais vous êtes fous, on veut pas... c'est gentil ce message sur le répondeur, mais on veut pas se faire tuer par tout le monde sur Twitter. Vous êtes dingue. On va avoir des problèmes après tout ça. Messieurs, ou alors Raphaël, tu nous les fais dans tes tops et tes flops. C'est quoi ton top ?
Non, mon top, c'est le match du jeudi soir entre les Rams et les Seahawks. On a assez l'habitude de dire que les matchs du jeudi soir sont pourris pour souligner quand on arrive de temps en temps à tomber sur un bon match agréable le jeudi soir. Donc voilà, belle rencontre entre deux équipes de la même division. C'était très sympa à regarder.
Grégory.
Bah, je peux difficilement, c'est dur à dire, ne pas parler de Christian McCaffrey et de son match absolument énorme contre Jacksonville qui remet Carolina. J'étais un petit peu moqueur tout à l'heure avec Kyle Allen et la comparaison avec Cam Newton, mais bon, McCaffrey joue un grand, grand rôle justement pour faciliter l'intégration d'Allen au niveau de cette attaque de Carolina.
Moi, je vais axer sur Londres, du coup, top pour Tottenham, le stade évidemment qui est magnifique. Pour situer, alors il fait 20 000 places de moins que Wembley, donc c'est quand même plus intime, autant qu'on puisse dire intime pour un stade de 60 000 places. mais alors, en fait, comme il joue beaucoup avec les lumières, notamment au moment des touchdowns, il y a des jeux de lumière, donc ça fait plus sombre, plus éclairé, etc. Je trouve qu'il y avait presque un côté salle de basket. C'est pour ça, le côté plus intime, ça faisait presque un peu plus salle de basket. Et ce qui est très impressionnant, sinon, en plein jour et même pendant le match, c'est que la tribune, donc le virage, alors je ne sais plus s'il est à droite ou à gauche, mais il y a un des deux virages qui n'a pas de niveau. C'est une tribune d'un seul pan, et donc ça fait un grand mur, c'est très impressionnant, c'est une tribune de 17 000 places sans différents niveaux, c'est vraiment tout un seul mur de 17 000 personnes, donc c'est plutôt sympa aussi, et le stade évidemment est ultra moderne, très très cool. Alors je trouve que Wembley a un peu plus de charme, notamment dans les espaces presse pour travailler et tout ça, mais voilà, donc quand même un top pour le stade de Tottenham qui est très 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 sympa. Et tant que je parle vestiaire, top pour ça aussi, les vestiaires à Tottenham par rapport à Wembley sont un milliard de fois mieux parce qu'ils sont beaucoup plus grands et qu'on peut circuler normalement et qu'on ne marche pas sur les joueurs, leur équipement et tout ça. Et du coup, un top pour un Derek Carr qui a l'air ultra cool, qui était ultra détendu dans le vestiaire, très souriant, etc. Et tous les joueurs des Raiders sont en général, très honnêtement, toutes les ambiances de vestiaire qu'on a fait à Wembley et à Londres en général, sont pas toujours aussi détendus, et là il y avait vraiment des sourires, ils étaient plutôt relax, ils étaient plutôt très ouverts, très sympas. Il y en a qu'un seul qui avait l'air un peu fermé, mais je peux très bien le comprendre, c'est Clelin Ferrell qui avait été déclaré inactif juste avant le match, il était blessé et je pense qu'il avait l'air un peu triste, plus triste qu'énervé d'ailleurs. Voilà, c'était, mais sinon très très bonne ambiance dans le vestiaire des Raiders, donc un top pour ça. Raphaël, ton flop?
Bah écoute, cette semaine, je ne suis qu'amour, j'ai pas de flop, rien ne m'a sauté aux yeux, les mauvais restent mauvais, bon, voilà, je sais pas.
Grégory, pourquoi tu... Grégory, il est là blasé, genre, ouais, oh, non, putain, moi je veux démonter des gens.
Je suis énervé aujourd'hui, là, faut que je prenne un médicament. Mon flop, c'est Raphaël qui crache sur Marcus Mariota. non, j'essaie de voir ça. Bah, la défense des Jaguars, tiens, là. J'ai mis à l'honneur Christian McCaffrey, mais je le dis, je suis scandalisé par cette défense contre le sol de Jacksonville. C'est pas possible à un tel niveau. Bref.
Bon, moi je vais dire l'attaque des Bears, alors pour alterner de côté de ballon, qui va leur coûter, je me mouille, qui va leur coûter les playoffs. Allez.
Oh.
En NFC Nord, je pense que ça va leur faire mal. Et je mets un deuxième top parce que je suis qu'amour aussi. Et Raphaël, t'as raison, je voulais mettre qu'un deuxième top sinon. Mais un petit clin d'œil à Tiffany, notre photographe, qui était quand même qui était là pour la première fois à Londres cette année et qui sera sur les 4 matchs. C'est la première fois qu'on avait une photographe sur place. Et vous allez voir des belles photos sur les réseaux sociaux dans les jours à venir. Et on a déjà commencé cette semaine. Donc voilà, c'était plutôt cool et c'est un top supplémentaire. Grégory, tu vas
avoir un deuxième top parce que je suis qu'amour aussi.
Vas-y.
Teddy Bridgewater, je dirais pas souvent pour un joueur des Saints. Voilà, c'est un mec super, donc je suis content qu'il ait fait un match.
C'est vrai, un top pour un joueur des Saints, là c'est vraiment de l'amour de la part de Zach. Sur cet amour, on passe aux questions. Les questions de la semaine, messieurs, c'est parti, je les ai devant. Tiens, pour faire une sorte de tirage au sort, Grégory, donne-moi un chiffre entre 1 et 10.
7.
6, 7, je scroll. Bonjour l'équipe, question un peu longue en approche. Depuis quelques années, j'ai l'impression d'entendre que le niveau des arbitres est de plus en plus faible. Est-ce dû à la simple mauvaise foi du supporter ou le fait que quasiment tous les ans, de nouvelles possibilités de review débarquent qui font baisser le niveau des arbitres qui inconsciemment se disent que ce n'est pas grave s'ils se plantent car de toute manière, les coachs s'en donneront à cœur joie pour faire changer de décision. C'était une question de Crap63.
Alors, juste moi là-dessus, au-delà du potentiel niveau des arbitres qui peut être discuté, j'ai pas forcément d'avis préconçu dessus. Ce qui m'embête le plus, c'est plutôt la non-homogénéité de l'arbitrage, en fait. C'est qu'on va se retrouver toute la semaine avec des holdings pas sifflés de la même manière, des violences sur le quarterback, des plaquages sur le quarterback. Un coup, on met juste la main sur le casque du quarterback, c'est une violence. L'autre coup, on dit rien. Enfin, voilà, moi, c'est ce côté-là où on n'arrive pas à avoir de décisions identiques ou qui se ressemblent à peu près. Et je trouve que ça crée un peu le sentiment que, en fait, personne ne maîtrise rien en termes d'arbitrage. Mais après, est-ce qu'ils sont vraiment si mauvais que ça sur l'ensemble d'un match avec 20 mecs à arbitrer sur le terrain, à voir tout ce qu'il faut voir pendant une action? Moi, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais bon.
Je suis d'accord avec Raph, c'est comme la VAR, c'est pourri.
Ah ouais, c'est radical. Non, mais je suis d'accord avec Raphaël. Je pense que quand vous voyez un match dans le stade, ça change aussi votre perspective. Et là, je dis ça en spectateur lambda, hein, mais quand tu vois la vitesse à laquelle ça va, comment les mecs se vont dessus, etc., même avec plusieurs arbitres, c'est quand même tellement dur de garder l'œil sur tout ça.
Non, mais c'est vrai que c'est surtout le roughing qui pose question, parce que c'est vrai que les flags sur les roughings, ça continue d'être quand même assez guignolesque. Et ça frustre vraiment beaucoup pour rejoindre ce que disait Raphaël, les fans à juste.
Mais clairement, hein, l'inconsistance dans tous les appels, de toute façon, on l'a vu sur les coups de casque, même, voilà, Earl Thomas n'est pas exclu quand il envoie Mason Rudolph à j'allais dire à l'hosto, mais il n'est pas allé à l'hosto, mais quasiment. Enfin voilà, il y a très peu d'homogénéité et de consistance là-dessus. Après, juste un petit mot, alors je peux me permettre de dévoiler une réflexion de la rédaction, mais il demandait si c'était aussi la mauvaise foi des supporters. On peut le dire quand même que cette semaine, on s'est fait la remarque dans la rédaction. On s'est dit que
les
gens sont un peu plus touchy ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On vous sent un peu plus à cran sur dès qu'on dit quelque chose sur certaines équipes, mais ça fait partie du jeu. Question, allez, de Mr. West, que pensez-vous des nouvelles directives pour protéger le quarterback? On a encore vu ce week-end beaucoup de roughing the passer ridicule, Rashan Gary pour avoir touché le casque de Prescott pendant qu'il court. Est-ce selon vous un mal nécessaire pour protéger les artistes du jeu que sont les quarterbacks, ou est-ce que ça va trop loin?
Non, ça part d'une bonne intention, mais bon, oui, après, c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Je suis pas sûr que quand ces règles-là sont mises en place, on s'attend à avoir des flags tout moisis, parce que Yalout, il a posé sa main de manière trop brutale sur la poitrine du quarterback. À un moment donné, les mecs sont pas en porcelaine non plus, quoi.
Il faudrait vraiment une vidéo d'explication, tu sais, où ils mettent vraiment des pains à un mec en disant ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. question de Raphaël, I'm pregnant. Bonjour les Titans, ne sont-ils pas l'exemple parfait de qu'on peut avoir une excellente défense sans avoir de grandes stars sur chaque ligne, mais qu'on ne peut pas avoir une excellente attaque sans avoir un très bon quarterback? Je crois qu'on a déjà eu le débat.
Bien entendu, je ne répondrai pas à cette question.
Parlé,
oui, je crois aussi.
Je crois qu'on a eu le débat. Rob Bears, quels sont les joueurs avec qui vous avez pu discuter post-match dans les vestiaires? Du coup, là, c'est pour moi. On a parlé. Donc, on a fait Darren Weller, Hunter Renfrow et Trent Brown, que vous avez entendu dans les jingles, et Josh Jacobs, vers lequel on a tendu le micro. J'ai même pas eu le temps de poser de questions. Les questions suivantes. Tiens, celle-là est de Daniel Aporto. Seriez-vous en faveur d'une réorganisation des divisions d'un point de vue géographique? Alors, il donne des exemples, je ne vais pas vous les faire, mais par exemple, l'AFC Nord, ce serait Bills, Giants, Jets, Patriots. L'AFC Sud, Buccaneers, Dolphins, Jaguars, Falcons. Est-ce que ce serait marrant de réorganiser comme ça par géographie?
Allez, pourquoi
pas. On fait conférence ouest, conférence est, il n'y a pas de raison. Quoi, il y aurait que la NBA? Ouais.
Bon, après, ce serait marrant d'avoir
un truc sympa dans le sud.
Après, justement, en voyant la question, je suis un peu penché dessus. C'est vrai que, on va dire que côté ouest, t'aurais quand même des équipes dans le Michigan et dans le Wisconsin. Ça serait un peu, elle est un peu déséquilibrée, je trouve, la carte des États-Unis façon ouest-est. Mais non, moi, je serais partisan de ça, en effet.
Ouais, ça pourrait être marrant. Et puis en plus, ça réduit les distances. Donc en théorie, les mecs sont plus frais.
Ouais, enfin bon, après, je suis pas sûr que ce soit les frais d'avion qui pèsent le plus aux franchises, mais.
Non, je parlais pas en frais, je parlais en frais, fraîcheur physique.
Ah oui, oui.
Sans lancer la polémique, ça rééquilibrerait peut-être certaines divisions. Mais
peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi.
Oh, ils balancent sur les Patriots.
Question de Daigan. Après 5 semaines, 2 équipes restent invaincues et chacune dans sa conférence, ça vous tenterait pas un Super Bowl Patriots 49ers avec 2 saisons parfaites et une revanche pour Richard Sherman? Non, qui a dit non?
Moi, je dis non. Ah, c'est pas, désolé pour les fans des 49ers, mais je serais pas hyper emballé par voir cette équipe des 49ers au Super Bowl. Je trouverais ça peut-être un peu prématuré par rapport aux joueurs dans l'équipe et aux potentiels talents. Mais
bon. Ouais, j'avoue, j'ai fait une micro-sieste là. Donc il nous demande si on serait enflammé à l'idée de voir les Niners cette année au Super Bowl, c'est ça, avec une fiche invaincue
contre les Patriots.
Ouais, les Patriots, oui, mais les Niners, bon, j'attendrais un peu quand même avant de m'extasier de les voir au Super Bowl, quoi.
Bon, ce serait pas mal s'ils arrivent là avec une fiche invaincue, pourquoi pas.
Il y aurait forcément de la hype autour d'une équipe qui arriverait avec une fiche invaincue, mais j'aime bien les équipes qui vont au Super Bowl parce que ça récompense un peu une progression, et je trouve que là ça serait un gros bond d'un coup, quoi, pour les 49ers, mais c'est que mon
Une question de Uberhawks. Allez-vous enfin, alors je vais répondre vite non à celle-là, allez-vous enfin arrêter de sous-estimer les Bills ou allez-vous mettre une équipe 4-1 en milieu de tableau? Mais tant qu'ils n'auront pas une attaque, en fait, ça reste une équipe de milieu
si
de tableau.
On a dit qu'ils vont en play-off potentiellement.
Sous-estime les Bills. Pas du tout.
Oui, en plus, vous dites qu'ils vont en play-off. Mais je les trouve qu'ils vont en play-off avec encore un deux tiers d'équipe.
Parce qu'ils je ne sais pas s'ils vont en play-off, mais bon, ils seront
à la lutte.
Ils seront 6-7.
Ils seront à la lutte. Et puis Brissette ayant joué plus que Luck ces deux dernières années, est-ce que la réussite des Colts n'est pas finalement une non-surprise?
Ouais. J'ai du mal à comprendre. Ah, du coup, Andrew Luck sur côté, c'est ce qu'il veut dire, c'est ça?
Non, c'est juste de dire que comme Jacoby Brissett a joué plus que Luck au final, parce qu'il avait joué toute l'année d'avant, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être surpris, sachant qu'il avait déjà de l'expérience, je pense?
Dans ce sens-là, je suis pas sûr que ce soit le sens de la question.
Il connaissait déjà cette équipe et qu'il a grandi avec, quoi.
En tout cas, c'est ce qu'il avait montré lors de la saison 2017 qui me faisait dire en début de saison que j'étais pas sûr qu'Indianapolis soit à 5 victoires du premier de division. Quoi. Il y avait quand même une chance, surtout dans une division homogène. Après, c'est sûr qu'il est quand même très bien entouré et très bien coaché, donc ça aide très très clairement. Ouais.
Question de Jean Bassoncou, avantages et inconvénients des trois stades londoniens, et la question qui va avec, c'est lequel le mieux? Bon, alors du coup, il n'y en a aucun de nous qui a fait les trois. Moi, j'ai pas fait Twickenham. Raphaël, t'as fait Twickenham et Wembley. Mmh. Et Greg, t'avais fait quoi? Wembley,
j'ai fait que Wembley, moi, je reste à Wembley.
Moi, des deux que j'ai vus, j'ai un poil plus de charme pour Wembley. Raphaël, Twickenham, c'est bien ou pas?
Je trouve que Twickenham a plus de charme que Wembley. Il y a un côté un peu histoire, clairement, à Twickenham, alors que Wembley est tout neuf, tout nouveau. Il a peut-être pas ce côté historique de Twickenham, mais Wembley est plus moderne, plus.
Mais alors, tu vois, tout ce que tu dis là, dimanche, tu vas à Tottenham, tu vas holder Wembley encore.
Ouais, possible, ouais, non, mais possible.
Parce que ça va te vieillir Wembley quand tu vas aller à Tottenham. Et il demandait aussi, question annexe, quel sera le prochain stade à accueillir un match NFL en Europe? Berlin, Munich, Paris, Milan. La NFL a dit qu'elle visait l'Allemagne, donc a priori, il faut regarder en Allemagne.
Munich, ouais, je pense, en termes de modernité, je pense que ça serait plutôt Munich ou.
Oui, voilà, je suis pas aussi calé foot que vous, mais à Berlin, il y a un gros stade.
Il y a un gros stade olympique, mais pas très moderne. Pas pour la NFL, je vois pas trop. Enfin.
Alors que l'Allianz Arena, c'est quand même.
Ouais,
ça a moins de 10 ans, très clairement.
C'est ça. Bon, et on va terminer avec la question de Dirty Fighter. Run CMC, donc Christian McCaffrey porte son équipe bien plus que son quarterback, qui ne démérite pourtant pas. Khalil Mack semble être le moteur des Bears. Quels sont les autres joueurs non quarterback qui ont plus d'impact que leur quarterback? J'aime bien cette question.
Ouais,
Quelle équipe le leader n'est pas le quarterback? À Tennessee, par exemple.
Attends, Camille me souffle quelque chose. Tu dis quoi, Camille?
Josh Allen.
Ah oui, c'est vrai que Josh Allen n'est pas un quarterback. Bah, Lamar Jackson, c'est pas un quarterback.
Oh, c'est bien dur.
Oh, qui a dit ça, là, franchement.
Derrick Henry à Tennessee?
Oui, éventuellement. Oui,
Alvin Kamara actuellement, mais juste quand il n'y a pas de rubrique.
Ah non, pas Alvin Kamara. Ah bah non, tu peux mettre Michael Thomas.
Von Miller a pu l'avoir ces dernières saisons du côté de Denver.
Oui,
C'est vrai.
Calais Campbell à un moment quand il y avait Blake Bortles à Jacksonville.
Ouais.
Ezekiel Elliott à Dallas.
Ouais, mais alors.
Ezekiel Elliott.
C'est pas forcément un leader, mais je pense que Jalen Ramsey a plus d'impact sur la défense des Jaguars que Calais Campbell.
C'est vrai.
Par rapport
à
l'adversaire.
Vrai. Ezekiel Elliott, Greg, très bonne remarque. Dans une top team, ça me paraît être le plus. L'an dernier, Todd Gurley, pour moi, enfin, je sais que Goff avait des belles stats et tout, mais pour moi, Todd Gurley était le moteur l'an dernier. Ça rentre aussi. Je suis en train de remonter la liste.
Qui
était le moteur des Jets si c'était pas Luke Falk aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a un moteur? Jamal Adams.
C'est exactement ce que j'allais dire. Jamal Adams, ça peut être un bon exemple.
C'est ça.
Voir Livian Bell, mais bon, il faudrait qu'il soit un peu.
Miami non plus. Hein. Donc, c'est des équipes en recherche de moteur pour le moment. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 310 du podcast Jean Actu. Messieurs, on vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris tous les dimanches. C'est soirée Game On au Hard Rock Café, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs et 6 bières pour le prix de 5 dans les beer buckets. Évidemment, ne ratez pas ça avec de la NFL. En plus, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Il y a Bastien qui s'est ajouté à la liste cette semaine et on le remercie. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, @tdactu sur Twitter, @tdactu sur Facebook et @jeanactu sur Instagram, n'oubliez pas, plein de belles photos qui arrivent. En plus, Raphaël _TDA pour Raphaël, Yellow Radiosa pour Grégory, Camille Saraben pour Camille et Alain Mattei pour moi-même, ça c'est sur Twitter. Et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël.
Eh ben merci à vous.
Merci beaucoup Grégory.
Toujours un plaisir. Je vais prendre mes médicaments, hein, je rassure les auditeurs.
Mais non, tout va bien. Franchement, on n'a pas ressenti.
On n'a pas senti que tu étais un peu aigri aujourd'hui.
Mais non. Et puis, merci beaucoup, Camille Sarabène, à la technique. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi pour la preview. Ce sera Raphaël et Raoul, je crois.
Non, je crois pas. Mais
non, tu crois pas.
Mais c'est Raphaël. Comment? Bon, bah on vérifie, non?
Je sais plus. On vérifiera le planning. Allez, on voit
c'est
ça. En tout cas, vous aurez une émission jeudi, quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Et on vous dit donc à très bientôt pour plus de NFL. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliatelle au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Croquage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.